Cube Radio. Yasmine Abdel-Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe.
Cube Radio, Cube Radio.
Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Jeudi 30 juin, bienvenue à tous nos auditeurs. C'est la dernière journée d'une autre longue fin de semaine qui arrive à grands pas. Et cette fois-ci, c'est celle de la Fête du Canada. Et beaucoup d'entre vous vont en profiter pour déménager également demain. Là, c'est aussi la journée nationale du déménagement au Québec. Et on commence à le voir dans les rues de Montréal. Il y a toutes sortes de meubles, de matelas, d'électroménagers. Ça commence à joncher les trottoirs de la métropole. Là. Et, mais j'espère que vous allez avoir de bons déménageurs, des déménageurs fiables. Ou accessoirement de bons amis qui vont venir vous aider, qui ont des gros bras, que vous allez récompenser avec de la très bonne pizza et de la bonne bière. La bonne nouvelle, c'est qu'il va faire beau. 28 degrés demain avec peu d'humidité, un temps ressenti de 32 degrés. Une excellente journée pour déménager. Alors, ce qui retient notre attention pour aujourd'hui dans l'actualité, ben évidemment, la saga des aéroports, ça continue et c'est pas prêt d'arrêter. Selon ce qui a été annoncé hier, ça va vraiment pas s'améliorer. Là, Air Canada a annoncé que près de 150 vols vont être annulés quotidiennement. 150, là, c'est énorme. Puis ça va être en juillet et en août, en pleine saison estivale, en pleine période des vacances. Il y a du monde qui a leur billet depuis tellement longtemps. Puis là, ils vont se retrouver avec des gros problèmes à essayer de trouver des réservations avec d'autres compagnies aériennes, essayer de sauver ces vacances qu'on a collectivement tous méritées après 2 ans de pandémie. Et la communication d'Air Canada hier, elle va faire monter le stress de tous ces voyageurs, le stress des Canadiens et des touristes également qui veulent venir chez nous, qui ne l'ont pas facile. Depuis quelques semaines, on se rappelle de la saga des passeports. Alors, on passe des passeports aux aéroports. Bref, attachez vos tuques si vous voulez aller en vacances. Il y a eu également cette annonce gouvernementale en matière de logement. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, a annoncé hier la construction de 1723 logements abordables dans le cadre du programme d'habitation abordable Québec. Et d'un partenariat qui va faire en sorte que 3000 logements abordables vont être disponibles dans 3 ans. Vous allez me dire, c'est demain que plusieurs familles vont se retrouver dans la rue, pas de toit, mais on va les prendre les bonnes nouvelles quand elles passent. Et là, dans 3 ans, il va y avoir plus de logements abordables. Vaut mieux tard que jamais. Il y a le chanteur R. Kelly qui a été reconnu coupable hier d'avoir mis en place un système d'exploitation sexuelle. Il a été condamné à 30 ans de prison. Il a été finalement reconnu coupable et condamné pour racket et transport de personnes sur le territoire des États-Unis à des fins de prostitution. Moi, ça me dépasse toujours de voir des personnes connues, à succès, adulées, commettre des gestes aussi impardonnables qu'absolument rien ne puisse justifier. Me semble qu'on devrait utiliser le fait que l'on soit admiré pour faire des bonnes choses, pas pour faire de la traite de personnes à des fins de prostitution, honnêtement. C'est les derniers jours ont été difficiles. Tu sais, on voit Ghislaine Maxwell, on a vu Harvey Weinstein. Qu'est-ce qui se passe avec les grandes vedettes? Pourquoi n'a-t-elle pas les valeurs à la bonne place? En parlant de valeurs à la bonne place, ben parlons de l'enquête du Devoir qui a été révélée ce matin. Une enquête choc, je vous dirais. La résidence pour aînés Villa Mondomaine, située à Lévis, fait l'objet de plaintes sérieuses concernant des travailleurs temporaires africaines qui ont travaillé comme préposés aux bénéficiaires pendant des mois sans être payés. Elles sont plusieurs à avoir témoigné, tant auprès des journalistes que dans le cadre de différentes enquêtes, notamment celle de la CNESST. Et on parle d'allégations de traite de personnes, de chantage pour des femmes vulnérables qui sont venues d'Afrique, qui veulent juste avoir un permis de travail et qu'on utilise l'obtention de ce permis de travail pour leur faire faire des heures et des heures de travail sans être payées. L'enquête du Devoir ce matin, elle mérite vraiment d'être lue. Là, C'est fou de voir que ça puisse arriver ici au Québec, à Lévis, que des personnes soient exploitées de la sorte. Il y a Radio-Canada aussi qui nous apprend que Dr. Arruda n'a jamais commandé une étude plus détaillée au sujet des cancers du poumon à Rouyn-Noranda. On se rappelle, la semaine dernière, Dr. Arruda, il a tenu un point de presse virtuel. Il a tenté de justifier son intervention pour empêcher la diffusion d'informations concernant le fait que des citoyens de Rouyn-Noranda, ceux qui habitent proche de la fameuse fonderie Horn, connaissent plus de cancers de poumons, que les bébés naissent plus petits. Bref, qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Il nous disait dans le point de presse la semaine dernière qu'il voulait s'assurer que les informations puissent être plus poussées, plus détaillées avant leur diffusion. Et c'est pour ça qu'il a mis un stop et demandé à ce que les chiffres soient plus étoffés. Or, ce qu'on apprend ce matin, l'histoire est tout autre. C'est plutôt la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue qui a demandé une étude plus approfondie à l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, et que cette requête n'est survenue qu'en juillet 2021, soit 2 ans après le retrait de la fameuse annexe par le Dr. Arruda. On va me dire qu'il y a eu une pandémie entre les deux, je veux bien, mais en 2019, le Dr. Arruda, s'il a empêché la diffusion de ces informations-là, me semble que c'est pour, en même temps, avoir commandé des études plus approfondies. J'ai hâte de voir la réaction du Dr. Arruda sur ces informations. On revient sur le meurtre de Myriam Boundaoui, cette jeune fille qui a été tuée en février 2021 avec une balle qui ne lui était pas destinée. Eh bien, un deuxième suspect de 27 ans lié au meurtre de l'adolescente et 4 autres complices ont été arrêtés par la police de Montréal. Et c'est ce qu'a annoncé le SPVM hier en compagnie de la mairesse de Montréal. La famille de Myriam Boundaoui s'est dite soulagée et on les comprend. Évidemment, le point de presse du Dr Boileau hier sur l'augmentation des cas de COVID, eh bien, la santé publique craint pour le réseau de la santé en raison du retour en force au Québec de la COVID-19. On voit la 7e vague déferler en Europe et on se dit, ben ça risque de s'en venir ici si le passé est garant de l'avenir. Alors, Dr Boileau recommande aux personnes les plus vulnérables de continuer à porter le masque, même s'il n'est pas obligatoire, et ça, même dans les festivals extérieurs.
Ex-conseillère politique, et ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel.
David Santarossa, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Alors, hier, il y a eu le dévoilement par la journaliste Daphné Dionvien en primeur de à quoi ressemblerait la nouvelle mouture du cours éthique et culture religieuse qui, là, serait un nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise.
Exactement. Grosse nouvelle quand même, parce qu'on attend ce nouveau cours depuis un certain temps. C'est un des gros dossiers en éducation, selon moi, pour la CAQ, parce que le cours de SRF, il faut se rappeler, a reçu beaucoup de critiques au fil des années. Et je vais peut-être identifier 3 principales critiques rapidement. Là. Donc, on disait généralement qu'il y a trop de place à la religion. Hein. Une compétence sur 2, donc grosso modo 50% du cours, était dédié à la religion. C'est quand même assez important. Ensuite, il y avait une forme de relativisme par rapport aux religions. C'est-à-dire c'était impossible pour l'enseignant ou même pour les élèves de critiquer la religion. Georges Leroux, un des concepteurs du cours, parlait même, et j'ouvre les guillemets ici, d'un respect absolu pour les religions durant le cours. Donc, on entend ça au Québec et évidemment, ça nous agace.
Ça fait sourciller,
exactement. Et aussi, troisième critique importante, on disait que c'était un cours multiculturaliste, un peu à la sauce woke, là, c'est-à-dire que tout est vu à travers le prisme de la tolérance. Le peuple québécois était généralement absent, tout était une question de droits individuels, je reviens là-dessus sur la tolérance. Mais est-ce qu'il existait...
Mais ça, c'est une mauvaise chose?
C'est-à-dire que la tolérance, évidemment, tout le monde est pour la tolérance, il n'y a personne qui compte la vertu, mais d'évacuer le peuple québécois, de dire finalement que ce n'est qu'une question, qu'il y a seulement des communautés qui vivent au Québec, que des individus qui vivent au Québec, moi ça me chicote. J'ai tendance à dire que non, il y a un peuple québécois, il y a aussi des il y a aussi des communautés, il ne faut pas se fermer les yeux, mais il y a quelque chose comme une... Il y a une identité nationale qui doit primer, à mon sens, sur les identités communautaires qui existent, il ne faut pas le renier, là.
Absolument, mais l'identité du Québec, c'est important de pouvoir en parler, tôt dans les écoles, dans les établissements scolaires, et de pouvoir rappeler qu'on est un peuple parce qu'on a un dénominateur commun, parce qu'on a une langue commune, parce qu'on a une identité commune et une culture commune, ultimement.
Ah, tout à fait. Et moi, j'ai enseigné le cours de SR. J'ai en fait étudié pour devenir prof de SR. Et j'entends encore aujourd'hui des trucs assez choquants de la part de mes élèves. Souvent même des personnes issues des communautés immigrantes qui refusent le terme québécois. Donc, c'est-à-dire que si je suis dans la classe et je dis tout le monde dans la classe est québécois, ça va les choquer. Ils vont dire non, je ne suis pas québécois, je suis algérien, haïtien, peu importe. Alors qu'ils ne sont peut-être même pas nés, mais ils sont même pas nés dans ces pays-là. Même parfois, ils sont même jamais allés dans ces pays-là. Donc, évidemment, tout le monde a le droit de revendiquer aussi son identité d'origine, de celle de ses parents, mais de pas se voir comme Québécois, ça m'achale beaucoup.
Ben, c'est un symptôme qui a quelque chose de grave qui se trame, puis c'est important de dévoir ce symptôme-là, d'agir là-dessus. J'imagine que ensuite, une fois qu'on parle avec eux, qu'on explique ça, ben là, la discussion se place et on est capable de faire comprendre l'importance de s'identifier également comme Québécois et prendre sa place.
Oui, tout à fait. Ce que j'espère, c'est que c'est le cours CCQ, donc Culture et Citoyenneté québécoise, va réussir à faire ça. Hein. Donc, je viens de parler des trois critiques et les trois réponses, si on veut. Est-ce que ces trois critiques ont été répondues? Donc, premièrement, oui, il va y avoir moins de place à la religion. Hein. Avant, je disais que c'était une compétence sur deux. Maintenant, on parle de, grosso modo, trois thèmes sur 10. Donc, on passe de 50% à 30%. Et même dans les trois thèmes, on parlera pas juste de religion. Là. Donc, vraiment, la religion est vue comme une composante dans l'identité de tous et chacun, mais c'est une parmi tant d'autres. C'est pas, elle n'est pas plus importante que les autres, si on veut.
Faut dire que juste le changement du titre du cours, qu'on passe de éthique et culture religieuse, quand on dit culture religieuse, on pense qu'il y a quand même une grande dimension de la religion dans le cours. Or, maintenant, on passe de culture à citoyenneté québécoise, et là, c'est différent.
Exactement, exactement. Donc, tu as tout à fait raison. On comprend même déjà dans le titre. Ensuite, sur l'aspect critique des religions, on n'a pas beaucoup d'informations pour l'instant là-dessus, mais juste le fait, puis c'est un peu ça que tu viens de dire aussi, juste le fait de changer le titre, juste le fait que la religion n'a pas cette espèce de primauté, ben on comprend déjà qu'elle ne sera pas sur un piédestal, la religion, cette fois-ci. Est-ce qu'on va tolérer la critique dans ce cours-là? C'est une autre question. Évidemment, je comprends aussi que c'est très, très complexe dans une classe au secondaire de dire « OK, on va critiquer certains dogmes religieux, certaines idées religieuses. » C'est des sujets très, très, très sensibles et ça peut facilement déraper. Donc, il faut que l'enseignant soit capable de très bien organiser sa classe, gestion de classe, ça doit être impeccable.
Mais est-ce qu'on a besoin de faire une critique des religions au secondaire ou au primaire, par exemple? Là, je pose la question vraiment par curiosité.
Au primaire, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait aborder peut-être les religions le moins possible, parce qu'en effet, c'est des sujets très, très complexes. Les élèves aussi ont parfois de la difficulté à distinguer croyances, mythes, réalités, droits de tous et chacun. Donc, tout ça, ça peut être complexe, mais j'ai envie de croire que plus on avance dans le secondaire, ben c'est des choses qui existent dans la réalité, dans le monde dans lequel on vit. Il faut tôt ou tard regarder ces croyances-là puis se dire, OK, non seulement les croyances, en fait, mais surtout les dogmes, les pratiques religieuses, parce qu'au final, les croyances, on a le droit de croire bien ce qu'on veut, mais comment on organise la société, l'égalité homme-femme dans les religions, on le sait, ça pose certains problèmes. On le voit aux États-Unis actuellement avec la question de l'avortement. Donc, à mon sens, oui, c'est des sujets qu'il faut aborder. La manière, j'ose croire que le gouvernement va nous donner des lignes de conduite, si on veut, parce que ça peut être très, très, très complexe.
Ce qui relance le débat sur est-ce que les enseignants sont formés pour donner ce genre de cours?
La réponse, c'est non. Hein. C'est 50% des enseignants de SR ne sont pas formés en ECR. Et même ceux qui sont formés en ECR ne sont pas formés, par exemple, en éducation à la sexualité, qui va être une part importante du cours. Moi, par exemple, j'ai reçu ma formation pour devenir prof d'ECR enseigner l'éducation à la sexualité, j'ai jamais eu de cours là-dessus. Donc, il va vraiment falloir qu'il y ait de la formation continue sur ce sujet-là. Ça m'apparaît très, très, très important. Et faut vraiment que je parle de l'aspect multiculturaliste du cours. Hein. Ça m'apparaît, c'était un des points importants. D'emblée, quand on a annoncé le cours, il y a quelques mois, voire un an de ça, on disait qu'il allait avoir une grande importance de la culture québécoise. On parlait même des grandes œuvres qu'on allait lire, qu'on allait écouter. Alors, pour l'instant, avec les thèmes qu'on a là, la culture québécoise a peu de place, en fait. Là.
Donc, mais en même temps, c'est un cours de... c'est pas un cours de littérature non plus, parce que c'est couvert aussi, la littérature québécoise, les œuvres culturelles québécoises, notamment dans les cours de littérature. Là, on est plus en train de sensibiliser à la citoyenneté québécoise, ne devrait-on pas miser sur l'importance de la démocratie, des droits collectifs, de l'éducation à la sexualité, des notions de consentement, plutôt que de refaire une pâle copie du cours de littérature?
T'as raison que c'est vraiment un cours de citoyenneté québécoise, c'est ce qu'on comprend. J'ai pas l'impression que c'était présenté comme ça ici. J'ai l'impression qu'on voulait montrer aussi comment la culture nourrit les institutions. C'est-à-dire que les institutions qu'on a aujourd'hui au Québec ne tombent pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a une culture, il y a une histoire qui est arrivée à ça. On parle souvent de laïcité. Yasmine, pardon, on n'est pas toujours d'accord sur cette question-là. Mais
c'est ça qui est le fun. C'est ça, la démocratie.
Ben oui, tout à fait. Mais toutes ces questions-là de laïcité n'arrivent pas de nulle part. Il y a tout un contexte historique. Ben, c'est intéressant de comprendre, OK, comment on est arrivé à cette séparation de la religion et de l'État au Québec d'un point de vue historique aussi, là.
Et David, c'est là où je te dirais, mais on a un cours d'histoire qui devrait couvrir les grands pans de notre histoire, les décisions qui ont fait en sorte que ce soit le droit de vote des femmes, l'émancipation de la femme, la révolution tranquille. On a des forums qui doivent être utilisés pour enseigner ça. Et je voudrais pas, personnellement, que ce cours devienne une espèce de fourre-tout de tout ce qu'on n'a pas su ou tout ce qu'on n'a pas couvert dans les autres cours. Alors, c'est où qu'on trace la ligne?
Tu mets le doigt sur le problème principal, c'est que ce cours-là, on ne sait pas trop finalement qu'est-ce que c'est. Ça touche un peu le cours de français, ça touche un peu le cours d'histoire. Éducation à la sexualité, on touche aussi un peu à quelque part au cours de sciences, au cours d'éducation physique. Donc, on est une espèce de touche à tout. Ça, c'est un autre problème important, à mon sens. Et un autre problème que je vois d'emblée, c'est, tu sais, on dit surtout sur la 5 qu'on va aborder les questions de féminisme, d'antiracisme, de décolonialisme. La question, c'est comment on va aborder ça? Est-ce que ça va être un cours, voici le bon féminisme, voici le bon antiracisme, voici le bon décolonialisme? Il y a des débats autour de ces enjeux-là aujourd'hui.
Ils sont très sensibles.
On en parle à chaque semaine. Et puis, est-ce que ça va être vraiment une place où est-ce qu'on va pouvoir en discuter, où il va y avoir une forme d'endoctrinement? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Hein? On parle beaucoup de wokisme, d'extrême gauche. Est-ce qu'on va se diriger vers ça avec ce cours-là? Moi, je le souhaite pas. J'espère que les enseignants, les élèves vont pouvoir discuter ces enjeux-là qui sont importants. Comme je dis, on en parle à chaque semaine, mais il va falloir qu'il y ait une véritable liberté d'expression, liberté de pensée dans ce cours-là.
Tout comme les religions, il y a ces mouvements sociaux qui sont importants. T'sais, on parle des Black Lives Matter, de la communauté LGBTQ et ses enjeux. Il faudrait être en mesure de pouvoir dresser le portrait de la situation aujourd'hui, comment ces mouvements sont nés, qu'est-ce qu'ils réclament, et pouvoir débattre de ça. Mais est-ce qu'on devrait donner que les bonnes... soit juste une critique ou soit juste les bons côtés de ces mouvements, je ne sais pas à quel point les enseignants sont encore là, outillés pour faire ça, parce que là, on leur annonce ça aujourd'hui, projet pilote commence en septembre.
Je pense aux enseignants qui vont faire le projet pilote. Mon école, moi, heureusement, on ne le fera pas parce que, je veux dire, les enseignants, en fait, ils ont su les thèmes aujourd'hui, mais on n'a pas le détail du programme. Donc, leur planification va commencer quoi au mois d'août pour savoir okay, où est-ce qu'ils s'en vont. Donc, moi, personnellement, je commence mon année au mois d'août, au mois de septembre. Je sais quand même, grosso modo, où est-ce que je m'en vais. Les enseignants qui vont faire ce projet pilote-là, je ne sais pas comment le gouvernement va les soutenir, mais moi, c'est sûr, ça m'inquiéterait à leur place, là, ça, c'est certain.
Il y a cette décision à propos de l'utilisation du mot « en haine » par Radio-Canada. Qu'est-ce que t'en as pensé? Peux-tu nous donner le contexte déjà?
Oui, donc à Radio-Canada, c'est le chroniqueur Simon Jodoin, il y a quelques temps, qui utilisait le mot en haine, en fait, qui parlait du livre de Pierre Vallière, Nègre blanc d'Amérique, et il citait le titre du livre, de l'essai, dans sa chronique. Et puis là, il y a eu une plainte au CRTC, et le CRTC vraiment reconnaît la validité de cette plainte-là et demande à Radio-Canada de faire une excuse publique écrite. Et puis, c'est assez étonnant de voir ça. À mon sens, il y a une différence fondamentale entre utiliser un mot et mentionner un mot. Évidemment, Simon Jodoin ne cherchait pas à choquer quelqu'un, ne cherchait pas à insulter quelqu'un, n'utilisait pas le mot, il ne faisait que le mentionner. Et moi, de ce point de vue-là, ça m'agace beaucoup, ce genre de choses-là. Et ça relance tout la question de la liberté d'expression. Et c'est certain qu'on va en parler une bonne partie de l'été, je suis certain, parce que ça va faire des petits, cette question-là, parce que le CRTC, c'est une institution quand même très, très importante au Canada.
David Santarossa, merci beaucoup.
Merci à toi.
À lundi.
À lundi.
Yasmine Abdel-Fadel. Une main de fer dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe.
Cube Radio.
La chronique argent.
Une vision des finances pas comme les autres.
Olivier Bourque, bonjour.
Bonjour, bonjour Yasmine.
Olivier, est-ce que tu nous parles de Montréal ou de Rouyn-Noranda? C'est la question que tout le monde se pose ce matin.
Ben, c'est devenu un vrai feuilleton, cette affaire-là. Hein? C'est le feuilleton de l'été. De Rouyn-Noranda,
oh,
ma chère.
Oh, quelle chance! Comment ça s'est passé? Raconte-nous tout.
Je te raconte tout. Il y a eu 4 changements d'heure de mon vol, premièrement, parce que on devait partir hier à 11h30. Premièrement, moi, je m'attendais à recevoir un texto, et peut-être même un texto de Michael Rousseau me disant que mon vol avait été encore...
En anglais, oui.
Mais non! En anglais. Mais non, finalement. Mais je recevais différents textos, c'est parce qu'on changeait l'heure de mon vol. Alors, on devait partir à 11h30 hier, mais finalement, ça a été aux alentours de 13h. On est parti donc pour Rouyn-Noranda. 4 changements d'heure. Pourquoi? Parce que l'avion, pilote, le personnel en cabine, on a eu du retard sur un autre vol auparavant, donc Ottawa-Montréal. Et là, c'est ça qui se passe, Yasmine. Après ça, qu'est-ce que tu penses? Ça fait un effet domino sur toute la journée. Alors, tous les vols après ça sont ou annulés, ou carrément donc déplacés de quelques heures, 1 heure, 2 heures. Et tout ça, évidemment, donc c'est relié à un problème de personnel. Et probablement que je vais écrire là-dessus la semaine prochaine, mais j'ai parlé hier, Yasmine, avec des agents du service à clientèle. Souvent, ce sont de jeunes femmes, donc dans la vingtaine, trentaine. Et elle me disait, à chaque jour, actuellement, à l'aéroport Montréal-Trudeau, c'est l'apocalypse.
Ah ouais.
c'est pas compliqué.
Je regarde les images, là, puis honnêtement, ça fait peur.
Ça fait peur, puis ça donne pas le goût de partir en vacances, assurément. Les vols sont annulés, les gens sont pas contents. Et là, après ça, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, combien vous êtes payé? Donc, au service à la clientèle. Alors, les personnes, les préposés qui sont en arrière des comptoirs, notamment donc chez Air Canada. Et on m'a dit qu'elle commençait à 16 $ de l'heure.
C'est pas très cher. C'est pas très... ça reste vraiment par rapport à la pénurie de main-d'œuvre, par rapport au fait que les employeurs s'arrachent des employés. Je peux comprendre qu'il y ait un taux de roulement qui soit énorme chez Air Canada?
Ben oui. Exactement, tu as tout compris. Alors, dans un contexte hautement stressant, le salaire minimum, je tiens à le dire, est à 14,25 $ actuellement. Donc, c'est 1,75 $ de plus que le salaire minimum. Et là, Air Canada affirme qu'elle a un sérieux problème de personnel. Tant toi et moi, paye ton monde et ça va peut-être mieux rouler, là.
Ouais.
Semble-t-il, hier, que le patron, M. Rainville, disait que les salaires des employés à l'aéroport de Montréal avaient grimpé entre 10 et 30 % pour attirer le personnel. Mais à l'évidence, c'est peut-être pas encore assez, là. Alors, donc, il y a un problème, évidemment, donc, de personnel. Et hier, je sais pas si tu as reçu, Yasmine, ta communication de Michael Rousseau, le grand patron d'Air Canada.
Je l'ai reçu, je plaide coupable.
En français ou en anglais?
Hey, j'ai reçu The English version will follow.
OK, donc en français,
parce que c'est ça.
Dans les deux langues. Même chose pour moi. Et là, imagine-toi, on s'excuse et on dit que tous les grands transporteurs sont touchés par la reprise qui est très, très difficile actuellement dans le secteur aérien. Et il dit, pour atteindre le degré de stabilité opérationnelle nécessaire, nous devons à contre-cœur pratiquer des réductions substantielles. Alors donc, ça veut dire au mois de juillet et au mois d'août. Donc, dans les 2 prochains mois, c'est grosso modo 150 vols par jour qui seront
annulés.
C'est
énorme, 150 vols par jour.
Oui.
Et on ne sait pas encore c'est lesquels. Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs voyageurs qui... C'est un peu la roulette russe, là. Ça va-tu tomber sur moi? Ça va-tu pas tomber
exact.
Sur moi? Je pars-tu en vacances ou pas? C'est difficile, déjà, de pouvoir avoir Air Canada au téléphone. est-ce qu'on... Tu sais si on va avoir la liste bientôt de ces vols annulés?
Oui, assurément, parce que là, on dit que ça touche le mois de juillet et le mois d'août. Alors, je ne sais pas ce sera quoi la tactique d'Air Canada. Est-ce qu'on va contacter directement les clients? Probablement. Mais imagine la logistique en arrière de tout ça. Et là, tu as raison. Là, on ne sait pas quels sont les vols ou quelles sont les liaisons qui seront touchées. On nous a dit hier, cela dit, que ça va toucher davantage Montréal et Toronto, donc qui sont les deux plaques tournantes. Mais à Montréal, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire 30, 40, 50 vols qui vont être annulés par jour? C'est beaucoup, là, 50 vols par jour.
Et
là,
est-ce que c'est des vols domestiques? Est-ce que c'est des vols internationaux? Est-ce que c'est pour les États-Unis? Puis là, hier, la réflexion que je me faisais, il y a tellement de monde qui partent en croisière, qui font des événements, qui ont acheté leurs billets depuis tellement longtemps, puis là, ça ne fait pas s'ils vont pouvoir, si la roulette va s'arrêter sur leur vol ou pas.
Ben oui, exactement. Ce qu'on semblait dire hier, Yasmine, c'est que ça va moins toucher les vols internationaux. Donc, par exemple, l'Europe, ça toucherait davantage les vols domestiques, des liaisons régionales. Donc, le fameux 500 $ de M. Bonnardel, là, ça se peut que ce soit pas très utile, soit pas très utilisé durant l'été. Parce qu'il y a, de ce qu'on en comprend, il y aurait moins de liaisons régionales. Et la conséquence de tout ça, ben là, tu l'as dit, premièrement, du stress pour les voyageurs si tu pars au mois de juillet, mois d'août. Mais la conséquence de tout ça, Yasmine, la mathématique est très simple. C'est pas compliqué, là. T'as moins de vols, la demande reste robuste, donc les prix vont monter. Assurément.
Et ça va être encore le chaos pendant plusieurs semaines, voire des mois à l'aéroport.
Assurément. Puis on va abandonner, là, j'ai vu hier, on a abandonné Montréal-Pittsburgh, alors j'imagine que c'était pas très, très populaire. Mais assurément, pour le transport régional, le domestique, peut-être des liaisons américaines. Peut-être en terminant sur ce sujet-là, ce matin, j'ai fait une petite recherche quand même. Ça demeure, pour l'Europe, ça demeure quand même relativement bon. Je regardais à Montréal-Paris. Corsair, tu vois, 660 $ au mois de septembre. Alors, je sais pas si les gens ils peuvent déplacer un petit peu, là. Je sais pas si c'est possible, évidemment, avec les vacances. Peut-être de déplacer un peu, là, au mois de septembre, j'ai l'impression que les prix sont plus raisonnables, mais assurément qu'il y aura de la pression sur les prix pendant l'été.
C'est sûr. Et hier, on voulait parler de l'OZO, cette entreprise centenaire qui vient de fermer ses portes et il y a plusieurs causes qui le justifient.
Oui, oui, exactement. On va y aller brièvement parce que je crois que tu vas parler tout à l'heure avec les anciens propriétaires.
Oui.
Je ne m'abuse. Bon. Alors, bon, tu l'as dit, c'est un magasin dans le sens le plus noble. C'est des vieux magasins avec du service, tu entres. Je veux dire, c'est une institution, l'OZO, là. C'est du matériel de photographie, de l'électronique, tout ça, établi sur la Plaza Saint-Hubert depuis environ près de 100 ans. Ils avaient été achetés par Henry, c'est une entreprise ontarienne, donc dans leur secteur, c'est un détaillant d'électronique. Et là, ce qui est surprenant, c'est qu'on devait assurer la pérennité de l'OZO, mais c'est pas ce qui est arrivé. Alors, rapidement, de ce qu'on en comprend, Henry a coupé des employés ici. Le site Internet de l'OZO avait été fermé. Ça avait été redirigé vers le site anglais de Henry.
Finalement, ils ont acheté une entreprise familiale pour la détruire.
Ben, c'est ça. Ouais. Mais tu sais qu'on le dit souvent, lorsqu'on est acheté par des groupes, des grands groupes, il y a toujours un risque pour les entreprises, puis des entreprises familiales, de se faire fermer à un moment donné. Et là, je ne sais pas c'était quoi la stratégie de Henry. Est-ce que c'était justement de fermer l'entreprise? Parce qu'ils sont exactement dans le même secteur, quoique c'est pas leur secteur. C'est le même secteur d'activité, mais c'est pas le même territoire. C'est davantage l'Ontario, Henry. Alors, c'est très, très décevant tout ce qui se passe. Puis peut-être, en terminant sur ce sujet-là, on a ciblé carrément les travaux sur la Plaza Saint-Hubert comme une des causes de la fermeture. On en parle peu, Yasmine, mais les grands travaux partout à Montréal, c'est vraiment dommageable pour certaines artères. La Plaza Saint-Hubert, là, on y va, c'est très, très beau, là. Mais est-ce que les clients, pendant les 2 ans, 3 ans que ça a duré, sont allés ailleurs?
Mais ça a fait beaucoup de mal à plusieurs magasins sur la Plaza Saint-Hubert, ces travaux qui se sont échelonnés sur plusieurs années.
Ben oui, puis Saint-Denis, Yasmine, franchement, là, je sais pas si c'est allé dernièrement, là, mais je veux dire, c'est pas stationnable.
Ah non, la dernière fois, je devais aller à un resto sur Saint-Denis, Olivier, puis j'ai fait le tour pour trouver du stationnement pendant 1 heure et quart.
Ben oui, exactement, parce qu'on sait que dans le plateau maintenant, on peut quasiment pas passer. Là, c'est un labyrinthe, grosso modo, là. Puis là, on va dire aller en métro, bien sûr, aller en métro. C'est bien d'aller en métro, mais parfois on part d'un endroit aux alentours de Montréal où on ne peut pas prendre le métro. En tout cas, c'est très, très compliqué. Et il y a eu des gros travaux aussi sur Saint-Denis. Et si tu te promènes sur Saint-Denis, Yasmine, tu vas voir, il y a beaucoup de magasins qui sont fermés ou qui ont mis la clé sous le tapis lors des derniers mois. Alors, tout ça est quand même assez désolant là, pour le commerce de détail.
Ce qui est particulier aussi, ce qui retient notre attention, c'est on a vu un texte sur les primes qui explosent à Investissement Québec. Là, on parle souvent des primes des hauts dirigeants, mais là, on parle aussi de tous les employés.
Oui, exactement. Donc, c'est la plume de mon collègue Sylvain Larocque. Ils ne sont pas à plaindre, les gens qui sont à Investissement Québec. Mais tu sais que M. Fitzgibbon, c'est son vaisseau amiral.
Oui, son bras financier.
Son gros bras musclé. Musclé, en tout cas, parce que on mise beaucoup du côté d'Investissement Québec. On fait beaucoup d'embauches. Et donc, les bonis versés l'an passé à Investissement Québec, ça a bondi de 43%. Ils ont versé un montant de plus de 12 millions en primes de rendement. Ils ont 1097 employés maintenant. C'est sûr que c'est important, Investissement Québec, Yasmine, parce qu'on va attirer notamment donc des capitaux étrangers. On est content lorsque, par exemple, un Moderna vient de s'installer à Montréal. Alors, ça prend évidemment donc des employés qui travaillent là-dessus, mais quand même, donc les primes qui ont augmenté. Écoute, la prime moyenne est établie à 11 000 $ par salarié. Donc, ça pour l'année 2020-2021.
Et c'est pas comme si les salaires de base étaient à pleurer, là.
Non, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Puis, on dit qu'il y a eu un rehaussement pour certains employés professionnels de bonis. Ça a passé de 7 à 9 %. Puis, regarde ça, les bonis pour d'autres types d'emplois, notamment donc des spécialistes en informatique, en investissement, en placement privé, les bonis ont passé de 12 à 20 %. Alors, sur un an. Et l'argument est toujours le même. Alors, on dit qu'on veut attirer des employés, il faut mettre les efforts, les salaires, puis qu'il y a une guerre de talents, faut payer les employés. Évidemment, on peut pas attirer des, comme on dit, des mouches avec du vinaigre. C'est pas faux, mais je crois que le service public doit rester attrayant. Évidemment, on regarde ce qui se passe à Service Canada. Donc, la fonction publique est importante. Maintenant, tout est dans l'équilibre. Lorsqu'on est dans une période économique plus difficile, puis on parle de plus en plus de récession, ben le gouvernement doit faire preuve également de frugalité.
On se pose la question quand on voit aussi des manifestants, des syndicats, des enseignants, des infirmières, et par exemple des employés d'Investissement Québec qui voient des bonifications augmenter, des primes augmenter, des salaires moyens augmenter, ça doit nourrir. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier? Tu penses pas que ça donne du gaz, ça donne des arguments solides à ces syndicats qui réclament des ajustements plus grands?
Ah oui, absolument, absolument. C'est sûr et certain que si les employés dans le secteur de la santé, par exemple, dans d'autres secteurs qui sont, on s'entend, plus importants que d'attirer des investissements étrangers, c'est ça l'affaire, là. On pourrait dire les grandes missions de l'État, des professeurs, des infirmiers, des infirmières, c'est sûr et certain que ça amène des arguments là, pour qu'on augmente aussi leur salaire. Et après ça, il y a aussi, on pourrait dire, une espèce de cercle vicieux actuellement, étant donné que bon, il y a une pénurie de main-d'œuvre, les salaires augmentent et ça alimente aussi l'inflation qu'on est en train de voir. Alors, mais quand même, on continue de dire du côté d'Investissement Québec que la mission est importante puis qu'on doit aller chercher des capitaux étrangers. Alors, il y a quand même des bonus qui sont impressionnants sur un an.
Olivier Bourque, merci beaucoup. On se parle lundi.
Ça a été un plaisir. Bonnes vacances. Là.
Merci.
Bon congé.
Yasmine Abdel-Fadel.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 cube radio.
1-877-827-2346.
Vous le savez, je suis une passionnée d'affaires publiques, d'affaires politiques. Et là, on va accueillir pour la première fois une nouvelle chroniqueuse politique, Stéphanie Touga, qui est juriste de formation et qui est aussi une passionnée d'affaires publiques et de relations internationales. Stéphanie, bonjour.
Bonjour, Yasmine.
Écoute, ça me fait plaisir de te parler aujourd'hui et surtout de parler politique à la veille d'élections générales qui vont être déclenchées à la fin de l'été pour un vote le 3 octobre. L'appui de la CAQ est toujours aussi fort, là. Ça bouge pas. Mm-hmm. Et on parle d'un clivage de génération.
Et oui, à 4 mois des élections, évidemment, l'appui de la CAQ est toujours aussi important, mais on parle clairement d'un clivage des générations. Mais avant de parler de clivage des générations, si on fait un petit portrait de la situation en ce moment au Québec, la CAQ est évidemment en avance dans 95 circonscriptions. C'est quand même 21 élus de plus qu'en 2018. Puis quand on regarde les partis d'opposition, ben il y a quand même il s'effondre. Le PLQ remporterait 19 sièges, Québec solidaire 9 sièges et le Parti québécois qu'un seul siège. Et possibilité d'un siège pour le Parti conservateur d'Éric Duhaime, qui espère évidemment là, faire une percée aux prochaines élections. Ça serait quand même historique pour la CAQ là, d'avoir au-dessus de 95 sièges. Ça s'est seulement fait deux fois dans l'histoire, là, dans les années 70-80. Mais qui vote pour la CAQ? La réponse, elle est très, très claire. Je regardais les sondages du dernier Léger qui est sorti ce mois-ci, et c'est évidemment les 55 ans et plus. Le taux d'appui de cette génération-là est exceptionnel. On parle de quasiment 60 % des Québécois de 55 ans et plus qui votent pour la CAQ. C'est plus qu'un Québécois sur deux de cette génération-là qui, peu importe où il habite au Québec, peu importe sa langue maternelle, parle de voter pour la CAQ. Et quand on regarde le contraste avec les jeunes, donc les 18-34 ans, le contraste est clair. Là, la CAQ est deuxième chez les jeunes. C'est Québec solidaire là, qui remporte le taux d'appui le plus important pour la jeune génération au Québec.
Qu'est-ce qui justifie que ni la nouvelle génération, ni, disons, les moins jeunes aient déserté des partis plus traditionnels, historiques, comme le Parti libéral du Québec ou le Parti québécois? Parce que traditionnellement, on se disait les aînés, là, ça vote libéral.
Oui. Ben, je pense que tu mets le doigt dessus quand tu parles de parti traditionnel, parce que la CAQ se bat pour la deuxième place chez les jeunes. Se bat avec qui? Pas avec le PQ, pas avec le Parti libéral. Ils se battent avec Éric Duhaime. Donc, chez les 18-34 ans, c'est Éric Duhaime qui est en deuxième position, là, qui est contre la CAQ à peu près nez à nez. Fait qu'évidemment, il semble avoir un désintérêt là, des jeunes Québécois pour les partis traditionnels. Et il y a un désintérêt des jeunes Québécois aussi pour se rendre aux urnes. Parce que si on regarde les gens qui se rendent voter année après année, peu importe le palier du gouvernement, les jeunes sont souvent, malheureusement, les grands absents. Et c'est très payant pour la CAQ dans ce contexte-là, parce que si les 55 ans et plus les appuient autant et se rendent voter, je veux dire, leur élection est comme réassurée de fois en fois, là, si je peux me permettre.
C'est qu'ils ont une partie un segment de la population qui leur est non seulement favorable, mais qui sort voter et qui est fortement représenté à l'urne. Donc, c'est gagnant à tout point de vue.
Exact.
Parlons maintenant des tensions Québec-Québec. Et là, on parle de la Ville de Québec avec le gouvernement du Québec. Bruno Marchand, il commence à ne pas se gêner à critiquer le gouvernement du Québec. Et ça peut faire mal en période préélectorale.
Exact. Le maire Bruno Marchand s'est fait entendre dans les derniers mois, à plusieurs moments, dans plusieurs contextes différents. Le tramway, le troisième lien. Plus récemment, il y avait aussi la promenade Samuel de Champlain à Québec qui a fait couler beaucoup d'encre. On peut penser que Geneviève Guilbeault aurait espéré un allié plus sympathique à sa cause à quelques mois des élections. On se souvient que Geneviève Guilbeault là, et Régis Labeaume, disons que c'était pas l'amour à la fin du dernier mandat Labeaume. Se sont envoyés une coupe de flèches par médias interposés. Et la situation semble un peu se répéter à Québec avec le maire Bruno Marchand, mais aussi avec l'opposition officielle. Donc, le chef de l'opposition officielle à Québec, Claude Villeneuve, a même qualifié la ministre Guilbeault de la pire ministre de la capitale nationale de l'histoire du Québec. Donc, tant au niveau de l'administration Marchand que de l'opposition, il semble y avoir là, vraiment un désengagement, un désintérêt, puis beaucoup de frustration à l'endroit de la ministre Guilbeault pour le travail qu'elle a fait pour la région depuis qu'elle est en poste.
Alors, Bruno Marchand, on a vu qu'il était capable de se fâcher contre le gouvernement du Québec. On l'a vu. Mm-hmm. On l'a connu à travers le tramway quand il est fâché. Il a dit à tout le monde qui s'y frotte, s'y pique. Et j'imagine que ça va pas être Éric Kerr, le ministre de la Région, parce qu'il s'entend pas plus. On a vu la sortie d'Éric Kerr contre Bruno Marchand dans le dossier du tramway et c'était pas beau.
Exact. Puis le vrai test de leadership, évidemment, Bruno Marchand a eu un mandat fort, c'est-à-dire qu'il a été élu il y a quelques temps, il y a bientôt un an. Mais Geneviève Guilbeault, elle, évidemment, son siège n'est pas en jeu, mais elle part quand même en campagne électorale et ensuite, quelques mois après la campagne, c'est remaniement, donc nouvelle législature, nouveau conseil des ministres. Ça serait vraiment un désaveu pour elle de ne pas revenir comme ministre de la capitale nationale. puis de surtout sortir sur deux maires fâchées en 4 ans contre elles, contre le gouvernement, puis qui les pointent du doigt de manquer de leadership. Qui pourrait être ministre de la Capitale-Nationale? Ben ça, c'est la question qu'on se pose. Mais évidemment, Geneviève Guilbeault, là, sortir sur cette note-là, ça serait vraiment là, un désaveu pour elle et probablement une déception là, de son mandat, de son premier mandat de vice-première ministre et de ministre de la Capitale-Nationale.
Penses-tu, parce que Geneviève Guilbeault est dans une situation particulière où elle a trois reconnaissances finalement à défendre. La première, c'est d'être ministre, tout simplement, ministre de la Sécurité publique. J'imagine qu'elle ne veut qu'une promotion, elle ne voudrait pas de démotion. D'un autre point de vue, elle est vice-première ministre, va-t-elle le rester? Et ensuite, elle est ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. Est-ce qu'on va lui enlever ce chapeau? Donc, elle a trois chapeaux à défendre après les prochaines élections.
Elle a trois chapeaux à défendre, trois chapeaux qui sont quand même, si je peux me permettre, assez prestigieux. Donc, vice-première ministre, évidemment, là, une femme dans la fin trentaine d'être vice-première ministre, c'est quand même tout qu'un honneur. Ministre de la Sécurité publique, dans un contexte où il y a eu une flambée d'armes à feu, là, on le voyait, il y a eu des arrestations en lien avec des fusillades à Montréal. C'est une préoccupation un peu partout au Québec. Donc, ministre de la Sécurité publique aussi dans un contexte sanitaire. Fait que c'est compliqué. Puis rajoutons à ça Capitale-Nationale, donc avec un chapeau là aussi assez compliqué, avec des tensions politiques avec les administrations municipales, tant la bombe que Marchand. Donc forcément, là, c'est trois chapeaux différents à défendre, mais trois chapeaux assez importants dans ce gouvernement-là, surtout un gouvernement de la CAQ qui mise sur la Capitale-Nationale pour se faire élire et réélire. Capitale-Nationale, région de Québec, là, c'est le seul endroit au Québec où il y a un siège pour l'instant qui est menacé par le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Donc forcément que François Legault là, veut s'assurer d'avoir le plein d'appui de la région de la Capitale-Nationale et pas laisser un pouce à Éric Duhaime.
Et il y a aussi cette annonce de la ministre André Laforêt hier, 3000 logements abordables qui seraient prêts dans 3 ans. Est-ce que si on utilise le contexte de la crise, alors que demain, beaucoup de personnes vont déménager pour faire cette annonce-là, est-ce que c'est trop peu, trop tard? Qu'est-ce que t'en penses, Stéphanie?
Ben, trop peu, trop tard, c'est ce qui semble avoir résonné hier. On parle en effet, comme tu disais, de 3000 logements. Fait que 2000 logements sociaux, 1000 logements abordables, qu'on demande au privé là, de donner un coup de main, donc le Fonds de solidarité sécu, Desjardins, tout ça. Certains parlent quand même d'un désaveu de devoir se retourner vers le privé, de devoir partir un nouveau programme à 4 mois des élections alors qu'il y avait déjà un programme qui fonctionne. Mais bon, reste que une annonce qui se faisait attendre. Là, les municipalités puis la population espéraient plus d'argent, plus de soutien en matière d'habitation. On est dans une situation de crise du logement. Enfin, le gouvernement le reconnaît. La ministre l'a reconnu hier en point de presse. À Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Québec, à Montréal, à Rouyn, on parle des taux d'une occupation quand même qui sont du jamais vu. Trop peu, trop tard, peut-être pas, mais espérons là, que ces logements-là ne feront pas trop attendre parce qu'on est quand même dans un contexte où les gens, demain, il y a des petites familles partout au Québec qui vont se retrouver dans une situation précaire où ils n'auront pas d'habitation, pas de logement. Donc, espérons vraiment que les bottines vont suivre les babines puis qu'il va y avoir des logements rapidement, que le gouvernement va vraiment là, emboîter le pas puis donner le ton pour la construction de ces logements-là parce qu'ils se font attendre depuis vraiment longtemps.
Stéphanie Touga, c'était un plaisir de te parler aujourd'hui. On va refaire ça plus souvent cet été.
Avec grand plaisir. Merci.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346.
1-877-CUBE-RADIO. Culture et société.
Marika, bonjour.
Bonjour, Yasmine.
Alors, il y a ces chroniques-là, on va aller dans les livres. On a beaucoup parlé de musique récemment.
C'est vrai, c'est vrai. Mais je suis une grande fan de musique. Mais je suis une grande fan de lecture également.
Ben oui, c'est de la culture.
C'est de la culture, effectivement. Est-ce que tu lis beaucoup?
J'adore lire.
Quel genre de lecture?
Ah, pour j'aime les biographies, j'aime les autobiographies. Mais disons que j'ai moins le temps de lire ces temps-ci parce que je passe mon temps à lire les journaux.
Ben là, les vacances s'amènent pour toi. Peut-être que j'aurai quelques recommandations pour toi aujourd'hui qui vont te titiller, qui vont te convaincre.
Entre la musique d'hier et les livres d'aujourd'hui, j'aime comment tu t'impliques dans mes vacances comme ça et que tu les meubles. C'est tellement le fun de pouvoir lire des bons livres en écoutant de la bonne musique. Je vais revenir tellement relax, Marika, là, tu vas pas me reconnaître. Alors, ces livres-là, ce qu'ils ont la particularité, c'est qu'ils ont été mis au petit écran en série.
En fait, pas tellement. C'est des, si vous avez aimé, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est si vous avez, si vous êtes plongé dans l'univers d'une série, si vous avez aimé une série, je vous propose des livres qui plonge dans le même genre d'univers, donc qui vous permet de poursuivre votre amour pour cette série. La première série dont on parle, c'est Stranger Things. On le sait, ça fait
un phénomène.
Tout le monde parle de cette série-là. Pour ceux qui connaissent un peu moins, bon, c'est une série de science-fiction qui frôle un peu l'horreur, dans laquelle on retrouve donc un groupe d'adolescents qui part à la recherche dès la première saison d'un de leurs amis qui, lui, est disparu. On en est à la 4e saison. Il y a d'ailleurs le 2e volet de la 4e saison qui sort le 1er juillet. Je sais que c'est très, très attendu. Mais ce qu'on nous apprend également, c'est que la folie Stranger Things ne s'arrête pas là. On sait qu'il y aura une 5e saison pour ceux qui ont dévoré cette série. Alors, pour se mettre dans l'ambiance, avant de vous proposer quelques livres, on écoute la bande-annonce.
I know you're frightened. You're terribly frightened by what you've seen. But I'm not going to lie to you. Your friends are not prepared for this fight. Hawkins will fall.
My friends need me.
You're not ready.
Déjà, ça nous met dans l'ambiance. On sent cette trame sonore, donc...
dramatique.
Très dramatique. Donc, il y a l'équipe de Cube Livre avec laquelle j'ai collaboré. Et là, je leur ai dit, j'ai envie justement de proposer ces livres-là. Le premier livre qu'ils m'ont proposé, si vous avez adoré l'univers de Stranger Things, c'est celle qui a tous les dons, qui est proposée notamment en format de poche. Je trouve ça intéressant, surtout si vous partez en voyage, en vacances. Donc, ça nous plonge dans l'univers de Mélanie, qui est une jeune fille qui vit en Angleterre. Et un peu comme Eleven, un des personnages principaux de Stranger Things, elle va faire l'objet d'expériences. Donc, elle va se retrouver sur une base militaire où elle va, elle aussi, être privée de ses libertés. Donc, on est un peu dans le même genre de thématique, science-fiction, expérimentation. Si vous aimez donc cet univers-là, il y a celle qui a tous les dons. Encore une fois, ça se retrouve sur Cube Livre. Ensuite, il y a l'équipe qui nous recommande chaudement Ready Player 2. C'est la suite logique de Ready Player 1. Si ça vous dit quelque chose, c'est parce que, notamment, le premier tome a été présenté en film. Ça a été adapté par Steven Spielberg. Donc, on nous plonge, encore une fois, dans un récit de fiction. Et là, on nous propose Oasis. Oasis, c'est un monde virtuel. Vous savez, ce fameux masque, ces fameuses lunettes qu'on emprunte pour plonger dans un autre monde qui est inatteignable, qui n'est pas le nôtre. Donc, c'est ce genre de roman-là. Et c'est donc une trame narrative qui peut beaucoup vous rappeler l'univers dystopique de Stranger Things. Ouais, effectivement.
Une autre série que personnellement moi j'ai adorée, This Is Us. Quelle belle série. Si vous avez envie de pleurer pendant vos vacances, This Is Us est faite pour vous.
Oui, je pense que vous avez été nombreux à être conquis par cette série-là. Et on comprend, c'est une série avec beaucoup de sensibilité et donc qui nous plonge dans l'univers de trois enfants, des triplés et de leurs parents, les trois enfants qu'on appelle affectueusement Big Tree. Et donc, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que la 6e et ultime saison s'est terminée le 24 mai dernier. Alors, on écoute un extrait de la bande-annonce.
And we swing!
I really wish that I had spent more time appreciating it when it was all happening, instead of just worrying about when it would end.
Watch me when you call my name. See me sparkle.
Big three?
Three!
Big three!
Big three!
Sing a song, play a game.
Pour les nostalgiques, parce que oui, la série s'est terminée. Ceux qui ont adoré suivre la famille Person, le Big Tree. Voici deux romans que nous recommande donc l'équipe de Cube Livre. D'abord, on nous recommande Mon père aux îles Mouk Mouk. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un livre québécois qui retrace...
Je me disais que c'était vraiment loin de décider Mon père aux îles Mouk Mouk.
Mais attends l'histoire. C'est une histoire vraie d'une famille qui est remplie de secrets. C'est l'histoire d'un fils donc qui découvre au funérailles de son père que son père a une deuxième, même une troisième ou une quatrième vie. Et ce fils-là a des frères et sœurs. Il est très, très tissé avec eux. Et donc, ils vont partir à la recherche des vies antérieures de leur père. Et c'est tellement bon comme livre, Yasmine, que ça a été aussi adapté. On retrouve donc l'adaptation sur vrai, sur Cube Télé. Donc, ça s'intitule « Double vie ». Sinon, deuxième recommandation, il y a Trois vœux. C'est un roman qui est chaudement recommandé encore une fois par l'équipe de Cube Livre. En fait, c'est très intéressant parce que c'est aussi un roman qui a été écrit par la même autrice qui a écrit la série Big Little Liars.
Ah.
Donc, tout est dans tout. Si vous avez aussi aimé Big Little Liars, vous risquez également d'aimer Trois vœux. C'est donc un roman qui suit l'histoire d'un trio, encore une fois des triplés, qui ont toujours, toujours été très, très tissés serrés. Mais là, un événement va venir chambouler leur univers et ils vont être confrontés à ce lien qui les unissait autrefois.
C'est très intéressant tout ça. Et dans un monde de licornes, dans un monde imaginaire, il y a les chroniques de Bridgerton.
Oui.
Ça, vous allez peut-être moins pleurer, mais vous allez peut-être regarder des belles robes médiévales.
As-tu aimé?
Monde... Ben, je le sais pas. Moi, il semble que des fois j'aimais mm-hmm. moins.
Je comprends ce que tu veux dire.
C'est bizarre.
Mais quand même, c'est la folie Bridgerton. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui raffolent de cette série, donc qui suit 8 frères et sœurs qui, dans leur parcours amoureux, leur recherche de bonheur, on se trouve à une autre époque également, alors on se met dans l'ambiance.
Is fair in love and war?
Miss Daphne Bridgerton!
You have no idea what it is to have one's entire life reduced to a single moment.
The time has come for the social season.
Tighter! She to breathe, Mama!
My name is Lady Whistledown. You do not know me, but I know you.
Donc, l'équipe de Cube Livre qui nous recommande un roman québécois de l'autrice Marie-Bernadette Dupuis. C'est un roman qui s'intitule « Amélia, un cœur en exil » et il nous entraîne à Vienne en 1888 dans la vie de la baronne Amélia qui vient tout juste de perdre son fiancé et qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Imaginez à cette époque.
Ça doit pas être facile.
Effectivement. Finalement, on nous propose Le Duc et la Naufragée, une nouveauté du côté de Cube Livre. C'est un roman qui est à la fois drôle et légèrement épineux. Et là, on se rapproche beaucoup des chroniques de Bridgerton. C'est l'histoire d'une jeune naufragée qui va parvenir à toucher terre finalement. Mais rapidement, on se rend compte dans le village où elle touche terre qu'elle souffre d'amnésie. Elle va donc être jetée en prison. Mais heureusement, il y a un jeune duc qui va tenter de la libérer de cette souffrance.
Une belle histoire, comme toujours.
Exact.
Marika, oui. Merci pour les recommandations de lecture oui. pour cet été. Pour ceux qui n'ont pas Netflix, on peut lire des livres.
Effectivement, c'est toujours bon. C'est toujours bon de lire.
Le sable entre les pages fait toujours du bien à l'âme.
Oui, et moi je trouve que c'est en vacances que je savoure le plus mes romans.
Savourons. Oui. Marika.
Et de belles vacances à toi, Yasmine.
Merci, on se retrouve à la fin juillet.
Certainement.
Ex-conseillère politique. Et ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel.
On continue notre revue des députés provinciaux qui ont décidé de quitter la vie politique. Et cette année, évidemment, il y en a plusieurs. Gaëtan Barrette en fait partie. Et Gaëtan Barrette est avec nous. Merci beaucoup, M. Barrette, d'avoir accepté notre invitation.
Merci, ça me fait plaisir.
Alors, comment on se sent après le 10 juin, fin des travaux parlementaires? On ne reviendra pas à l'Assemblée nationale, on retrouvera pas son pupitre. Comment vous vous sentez aujourd'hui?
Très bien. C'est une étape dans la vie que j'avais prévue à mon entrée le 7 avril 2014. Alors, ça se passe très bien pour moi.
Est-ce que vous avez des plans pour l'automne? Vous, est-ce que c'est une retraite qui vous attend ou vous êtes en train de caresser des projets qu'on va apprendre un autre jour ou que vous pouvez nous dire ici de manière exclusive? Évidemment, on est entre nous, M. Barrette.
Bien sûr. Alors, j'ai pas de projet particulier. J'en ai jamais eu dans ma vie, sauf celui de faire mon cours de médecine. Le reste, j'ai jamais sollicité d'emploi ou de position. J'ai toujours attendu ce qui allait arriver. Alors, je m'attends à ce que le téléphone sonne, et s'il ne sonne pas, ben, c'est pas grave. J'ai 66 ans dans une semaine, alors c'est l'âge de la retraite. S'il sonne, ben, on verra si ça m'intéresse. Si ça ne m'intéresse pas, je ne le ferai pas. Mais je peux vous dire une chose, quand on m'appellera, il faudra qu'on me propose quelque chose à propos de laquelle j'ai des chances d'aboutir. Alors, je ne rembarquerai pas dans des espèces de projets qui sont des projets, de faillance, des projets où on n'aboutira jamais. Là.
Est-ce que vous considérez qu'être député de l'opposition est un projet qui n'aboutit jamais et un projet de faillance où on ne fait que finalement se présenter, mais qu'on n'a pas nécessairement le pouvoir pour faire avancer les dossiers qui nous sont chers?
On a un pouvoir pour moduler des dossiers qui sont des dossiers courants et on a le pouvoir d'apporter certains dossiers nouveaux. Et là, le problème pour le député d'opposition, c'est qu'il faut franchir ce que j'appellerais le mur des médias. Parce que les médias, ce sont un peu des haut-parleurs, des amplificateurs de nos idées. Et si ça ne colle pas, ben on ne le fera pas avancer. Et si ça colle, oui, on peut le faire avancer. Ça, c'est pour des nouveaux projets. Et pour ce qui est courant, ben on a le pouvoir, avec le même mécanisme, mais avec moins d'importance, de bénéficier des médias.
Puis les médias, on sait qu'ils jouent une force d'accélération de certains dossiers. M. Barrette, qu'est-ce que vous avez aimé le moins de votre rôle à l'opposition?
Ah, le rôle à l'opposition, ce que j'ai aimé le moins, ben ça, je veux dire, je pense que personne ne va être surpris si je dis que dans l'opposition, je n'ai pas bénéficié des dossiers qui étaient dans ma palette régulière.
Vous auriez aimé être le critique en matière de santé?
Oui, je pense que mes collègues ont fait un excellent travail en santé, mais disons que ça aurait été plus agréable pour moi, vous poser la question pour moi, là, pas pour le parti. Pour moi, ça aurait été plus agréable, plus efficace, à mon avis, en ce qui a trait à l'énergie que j'ai à mettre là-dedans et la compétence d'être en santé. Là, évidemment, les gens vont me dire, oui, mais vous pouvez pas être en santé parce qu'à chaque fois que vous allez vous lever, on va vous dire oui, mais vous étiez là, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Mais moi, je dirais que le fait d'amener l'angle nouveau, l'angle plus détaillé a son effet. Bon, ça, je ne l'ai pas eu, c'est pas grave.
Est-ce que vous pensez que c'est une erreur de leadership que de ne pas avoir misé sur les forces des membres du caucus existant libéraux pour attaquer certains dossiers comme celui de la santé à plus forte raison lorsqu'il y a une pandémie?
Ben, comme je vous dis, il y a des gens qui sont compétents là, quand même chez nous. Ils ont fait un excellent travail. Maintenant, ça sera toujours la prérogative du ou de la chef de sélectionner les fonctions de ses membres, des membres de son caucus. Au pouvoir, c'est sa prérogative pour nommer les ministres. Dans l'opposition, c'est sa prérogative pour nommer les porte-parole. Alors ça y appartient. L'histoire dira si c'était les bons choix ou non.
Monsieur Barrette, comment vous vous sentez alors que vous quittez et que le Parti libéral est au plus bas des sondages, que même les projections de sièges donnent votre circonscription Lapinière comme circonscription caquiste aux prochaines élections? On n'aurait pas pu imaginer ça il y a quelques années. Comment vous vous sentez comme membre du caucus sortant, caucus libéral qui risque de diminuer en termes de nombre?
Ben, écoutez, pour ce qui est de ma circonscription, c'est pivot. Alors là, ça peut aller dans un sens ou de l'autre. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui, selon les analyses, que ma circonscription s'en va à la 4. Ma circonscription, elle est dans la vague du temps, l'ère du temps électoral au Québec. Il y a une vague caquiste qui fait en sorte que ça va être difficile à la prochaine élection. Alors, chez nous, ça ne fait pas exception. Mais j'ai encore bien confiance là, que d'ici le 3 octobre, les Québécois qui nous écoutent vont se rendre compte de la situation et réaliser qu'à la CAQ, là, on a bénéficié de 2 ans de pandémie, 2 ans où ils étaient intouchables parce que personne n'osait les toucher. Moi, je connais des journalistes qui se font littéralement presque, menacés de plainte au conseil de presse parce qu'ils n'aiment pas leurs articles, là. Alors, la CAQ a bénéficié d'une situation hégémonique dans l'espace public, et on l'a dit il y a quelques instants, l'espace public crée une situation favorable et défavorable, et ça a été ça. Maintenant, les 3 prochains mois vont peut-être changer un peu ou beaucoup la chose, et les gens vont peut-être réaliser, puis je vais vous donner un exemple. En santé, là, c'est bien beau la pandémie, là. Et la pandémie n'a pas empêché les cerveaux du ministère de fonctionner et les décisions de se prendre. Et il n'y a rien qui s'est passé pendant 4 ans en santé, là. Vous n'avez toujours pas de médecin de famille, vous attendez toujours à l'urgence, l'informatisation n'est pas toujours faite, et ainsi de suite. Toutes des choses qui auraient pu être réglées en 4 ans. Moi, je peux vous dire une chose, c'est sous nous autres, ça aurait été réglé, mais ça n'a pas été fait. Alors là, l'ère des excuses, là, elle est passée et les 3 prochains mois vont peut-être jeter plus de lumière là-dessus.
Ce Barrette, on entend encore beaucoup parler de la fameuse réforme Barrette, comme un espèce de vidoir de toutes les critiques que l'on peut adresser au système de la santé. Est-ce que vous regrettez la réforme Barrette et si vous aviez à la refaire, est-ce que vous feriez quelque chose de différent?
Ben, je le ferais sur un ton un peu différent, mais je ferais les mêmes choses. Vous savez, les gens ont oublié, là, parce que quand j'ai quitté en 2018, on avait fait le recensement, on avait recensé toutes les annonces, petites et grandes, que nous avions faites pendant mon mandat, il y en avait plus de 400. Et tout ce qu'on retient, c'est la réforme. Et sur la réforme, ben, je vous soulignerai à grands traits que la CAQ n'a pas défaite. Je vais vous donner un exemple qui est tellement, tellement parlant. On m'a reproché d'avoir fait une réforme où on avait diminué le nombre de cadres. On en a diminué de 1300 parce qu'il y en avait trop. Le Québec, il était dans l'endroit au Canada et même en Amérique du Nord le plus encadré. La CAQ, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en ramène 150. Ça veut dire, 150 sur 1300, que j'étais à la bonne place à 90%. Vous savez, quand je passe un examen, moi, là, quand j'ai 96%, là, je me trouve bon. Alors, c'est comme ça dans tous les secteurs de ma réforme, qui a été peu comprise. On ne l'a pas changé. On a fait des ajustements, et c'est normal. Il y a toujours des ajustements à faire. Ce que j'ai fait n'est pas parfait. Mais je vais vous donner un autre exemple. Je vous l'ai donné il y a quelques instants. Numériser, là, informatiser le dossier santé, le réseau. Je l'avais commencé. Ils l'ont arrêté en 2018. Il y a des produits qui s'achètent et qui s'installent. 4 ans pour faire ça, ça devrait être terminé. Terminé. Et aujourd'hui, on annonce un chantier qui va prendre 5 à 6 ans.
Mais en même temps, M. Barrette, la question que je me pose, puis vous avez des arguments évidemment que vous faites valoir, mais pourquoi êtes-vous le seul de votre caucus à défendre la réforme Barrette? N'appartient-elle pas au bilan du Parti libéral et que tout le monde, à plus forte raison, la chef de l'opposition officielle et la chef du Parti libéral du Québec, devrait démontrer plus d'ardeur à défendre le projet que vous avez proposé?
Bien, vous posez une excellente question à laquelle une seule personne peut répondre. Je vous invite à lui poser la question.
Est-ce que vous êtes déçu du fait que vos collègues n'aient pas défendu les actions que vous avez tenté de faire avancer en matière de santé?
C'est que mes collègues là, ont défendu les choses. Et vous savez, la défense, c'est un peu... Ça appartient, je dirais, aux individus. Moi, ce que je peux conclure après 8 ans et demi là, de politique, c'est que si les choses ne sont pas parfaitement comprises, bien, elles sont mal perçues, peu importe qui les regarde et les analyse.
C'est sur cette note-là que je vous dis merci, Dr. Barrette, d'avoir pris le temps de venir nous parler. Je suis pas mal sûre que le téléphone va sonner et que on va vous voir plus souvent dès cet automne, sous d'autres responsabilités, parce que vous n'avez pas la langue dans votre poche et vous aimez bien trop ça, commenter l'actualité pour que vous preniez votre retraite, là.
Écoutez, je vais utiliser une expression qui est appropriée dans cette période-ci.
On verra.
On verra.
Bonne journée, Dr Barrette, et bonne fête du Canada.
À vous aussi, au revoir.
Yasmine Abdel-Fadel.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1877-827-2346. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Tom Mulcair, bonjour!
Salut, Yasmine!
Alors, ce fameux 6 janvier, on n'a pas fini d'en entendre parler et chaque jour amène son lot de révélations encore plus choquantes, frappantes et fracassantes que la veille. Et c'était le cas hier.
Oui, et je suis complètement d'accord avec la longue énumération d'adjectifs et que tu viens de faire. Mais la vraie question, à mon point de vue, c'est est-ce que ça va changer quoi que ce soit à la popularité de Donald Trump? Bon, toi et moi, on fait dans le commentaire et l'analyse politique, à la télé, à la radio, on écrit. Et moi, honnêtement, à plusieurs reprises, je dois faire un aveu, à plusieurs reprises au cours des dernières années, je me suis dit, OK, ça y est.
C'est la fin.
Là, cette fois-ci, là, ça se peut pas qu'il continue. Et je vais le redire en le croyant toujours cette fois-ci. Je crois que cette fois-ci, on a appris trop. Dans les médias, il y a une nette division entre les pro-Trump, qu'on peut nommer, qui sont Fox News notamment, et ceux qui sont beaucoup plus nuancés, voire anti-Trump, nuancés CNN. Anti-Trump, on peut le dire, MSNBC, donc ouais. des grandes chaînes américaines. Mais cette fois-ci, je pense que, et c'est ça le test, l'Américain moyen se lève en se grattant la tête en disant, il a fait quoi? Alors,
mais
le
penses-tu
récit...
qu'il fait ça, l'Américain moyen, Tom? Penses-tu qu'il regarde ça? Parce que je te cacherai pas que je regarde la télé, puis je suis comme, me semble que n'importe quel autre président américain qui a eu les mêmes révélations qu'il y a eu il y a deux jours, ben ça serait... Il y aurait des émissions spéciales qui s'enchaîneraient les unes après les autres. Puis là, on dirait qu'on est déjà passé à autre chose. On parle du sommet de l'OTAN. C'est comme business as usual.
Oui, et par pur hasard, ce week-end, on a des bons amis américains qui adorent tellement le Québec. Ils habitent la Floride, Tallahassee, la capitale dans le Nord. Mais ils viennent régulièrement à Québec où ils ont un condo. Et ils adorent. Ils ont fait la boucle complète de la Gaspésie avant la grande saison touristique et ils sont repartis avec plein de choses de Saint-Jean-Port-Joli. Ils sont des Québécophiles. Le gars a un doctorat. Sa femme est une femme d'affaires réussie. Ils sont à la retraite tous les deux aujourd'hui. Mais le gars, il est archi pro-Trump. Et pendant des années, parce qu'il venait à Ottawa, on se voyait, on se côtoie. C'est un gars qui occupait la même fonction que moi quand j'étais président de l'Office des professions. On est des amis depuis. Puis lui, il avait commencé à me parler de Benghazi, de l'échec de Hillary Clinton, du fait que... Alors je dis, mais tu sors tout ça d'où, toi? Tu répètes toujours les mêmes trucs. Alors il dit, ça, c'est Fox News. Eux, ils font une vraie analyse de ce qui se passe. Je répète, le gars a un doctorat. Donc, c'est pas un épais là, du fin fond de nulle part qui
mais on dirait que le monde qui soutient Trump, il n'y a aucun argument pragmatique, logique, réaliste qui peut leur être présenté, qui va les convaincre que ça n'a juste pas d'allure.
Oui, mais j'ai testé un petit peu. On n'avait pas encore les grandes révélations de mardi, mais j'ai testé un peu. Ben, je dis, mais vraiment? J'ai dit que n'importe qui aurait pu faire les deux premières années de son mandat à Trump. Je dis, tu sais, c'est le gars de Celebrity Apprentice qui s'est fait élire président des États-Unis. C'est comme si c'était une mauvaise blague. Mais je dis, mais quand il y a eu la pandémie, il n'avait aucune idée quoi faire parce que c'était pas un coup de gueule ou du bagou qui pouvait lui en sortir. Il fallait connaître le gouvernement, être structuré. Puis Trump, si on peut lui faire un seul reproche, c'est que c'est pas un gars structuré.
Non.
Il part à gauche, à droite, c'est n'importe quoi qui lui passe par la tête. Mais c'est un vendeur d'huile de serpent. C'est un gars qui a du charme. Il y a du monde qui tombe là-dedans. Il y a une trame de fond qui est proprement raciste, mais il est tellement expérimenté à le cacher un petit peu sous des nappes et des couches d'autres choses. Mais quand il glisse, par exemple, il tombe dans son Muslim ban, là, c'est purement, proprement raciste.
Mais tu sais, on l'a tout oublié, on lui a déjà tout pardonné ça, comme si de rien n'était. Les propos misogynes à propos des femmes, à propos des handicapés, à propos des Noirs.
Si c'était juste des propos... Non, c'est... concernant les femmes. Non, mais l'historique est quand même incroyable parce que n'importe quel autre homme ou femme politique avec un de ces trucs-là dans son bilan aurait été éjecté puis n'aurait pas eu la capacité d'y répondre. Mais on dirait que Trump a été dans la chenoute toute sa vie. Il a dû apprendre des trucs pour inventer, mentir, s'esquiver. C'est hallucinant. C'est un gars qui a été en faillite plusieurs fois, qui a commis... Le gouvernement est en train de lui courir après pour ses fraudes et tout ce qu'on veut, mais il continue. Et moi, cette fois-ci, par contre, parce qu'il s'agit de s'attaquer au fondement même des États-Unis, il y a des gens, voire des millions d'Américains, qui vont l'appuyer. Dire, on est dû pour un grand renversement aux États-Unis.
Mais cette fois-ci,
Yasmine, je crois que le commun des mortels, il y a des gens qui sont un peu plus dans le milieu, qui ont peut-être voté Trump, qui regardent ça et disent non, on a quand même un pays avec une démocratie qui perdure depuis 250 ans. On ne peut pas permettre à un clown comme Trump de venir tout renverser.
Mais ne penses-tu pas, Tom, que ça se fera lorsque le bloc monolithique des républicains va commencer à être fragmenté, puis qu'on va voir des républicains dire « Bon, on l'a soutenu jusqu'à date, là, mais là, ça n'a plus d'allure, puis c'est pas possible, parce que je la trouve toute seule, Liz Cheney. »
Très intéressante ta question, parce que ce matin, encore une fois, dans des médias qui ne sont pas nécessairement trop proches des démocrates, on commence à regarder les 43 sénateurs républicains qui ont voté en faveur de Trump lorsqu'on savait déjà. Donc, on a essayé de le destituer. Hein, on appelle ça impeachment. On a essayé une deuxième fois de le destituer et c'était peine perdue. Bon, est-ce que Pelosi a eu raison? Je crois que dans le grand ensemble, ce qui risque de causer le plus d'ennuis à Trump, c'est le fait qu'il ait participé activement à fomenter, à préparer, à soutenir cette tentative de coup d'État. C'est parce que c'était ni plus ni moins ça. Moi, je pense que ça risque de lui causer plus d'ennuis. Donc, j'ai toujours trouvé que le truc de Pelosi, tout de suite après l'élection, une deuxième tentative de destituer quelqu'un qui n'était déjà plus le président, je trouvais que c'était un coup d'épée dans l'eau. Mais là, on commence à réaliser qu'il y avait peut-être un sous-texte purement politique. Parce que là, on commence à viser et parler activement des gens qui ont soutenu cette tentative de coup d'État, qui ont soutenu Trump lorsqu'on savait déjà plus qu'assez de son rôle là-dedans, parce qu'on a joué un film extrêmement bien monté à l'époque. Donc, moi, j'ai l'impression que, un, les carottes ne sont pas cuites, contrairement à ce qu'on pensait il y a un mois, que Biden allait se faire laver dans les mi-mandats à l'automne. Je suis plus certain, moi. Et bien que la droite américaine est en train de se rallier un petit peu moins autour de Trump maintenant que contre Biden. Biden, c'est un pas bon. Il est nul.
Mais ça peut être un choix par défaut pour contrer l'effet Trump. Tom, je tiens à en parler de ça aujourd'hui parce que demain, c'est la fête du Canada.
Ben oui.
Et c'est important, la fête du Canada. Je sais que c'est important pour toi. Tu sais que c'est important pour moi. Et... profitons-en pour parler de la déclaration de François Legault sur le multiculturalisme. Oui. Une déclaration qui en a surpris plus d'un, particulièrement la communauté anglophone, je dois le dire. Pourquoi? C'est la seule question qui me vient à l'esprit. Pourquoi est-il allé là-dessus?
Mais sa déclaration était plutôt étonnante. Parce qu'il est allé vraiment un truc à l'emporte-pièce et il a dit ceci. Il est important qu'on ne mette pas toutes les cultures au même niveau. C'est pour ça qu'on s'oppose au multiculturalisme. Donc, on a un aperçu tout de suite en partant de la conception qu'en fait François Legault du multiculturalisme qui est honni dans beaucoup de milieux. Ça me rappelle quelque chose que j'ai déjà lu de la part d'une personne bien en vue qui écrit des chroniques. Et elle avait dit, vous savez, je suis allé visiter une école dans tel secteur dans la grande banlieue de Montréal, puis on dirait que les étudiants croient que toutes les religions sont égales. Or, c'est le cas, il y en a qui sont dangereux, puis devinez laquelle elle disait. Mais je me suis dit, comment est-ce qu'on peut écrire, vivre à un certain niveau, et dire des choses comme ça contre une religion. Et comment est-ce qu'on peut être premier ministre de la deuxième plus importante province au Canada, la seule qui a une majorité francophone, quand on a eu à survivre justement à des préjugés puis à des attaques basées sur l'origine ethnique, sur la langue, sur la religion. Les Québécois ont survécu. Il y a eu énormément de préjugés contre. D'habitude, ça nous donne un petit peu d'empathie et dire, ben, je comprends la réalité de gens qui se sentent isolés à cause de leur background, de leurs origines et ainsi de suite, et je vais être encore plus ouvert. Le multiculturalisme qui est dans la Constitution de 1982, ça visait à s'assurer que l'utilisation de l'anglais et le français sont des droits pour des études, par exemple, qu'on arrive du Saguenay au Sénégal, lorsqu'on est au Manitoba, on a le droit, si on est citoyen canadien, on a le droit d'envoyer nos enfants à l'école française.
Exact.
Donc, ce sont des droits basés sur la langue, pas sur l'origine ethnique. Et ce qu'on fait ici, c'est on fait une sorte de mélange. On dit, le multiculturalisme, c'est dans la Constitution de 1982, on n'a jamais signé ça, mais on essaie à chaque fois qu'on peut d'en tirer profit, mais on n'a pas signé ça. Donc, on est contre le multiculturalisme qui ne vise qu'à dire, écoutez, bienvenue chez nous, tout le monde peut continuer d'avoir ses coutumes, ses origines, sa manière de voir le monde, mais on est tous ensemble. Mais M. Legault a tendance à dire, non, un instant, ici, il y a une culture qui est, et vous avez le droit d'être interculturel, mais pas multiculturel, comme c'est si encore... les gens sur l'autobus 105 comprenaient la différence.
C'est malheureusement encore cette vision que qu'il faut lutter contre le multiculturalisme parce qu'on est contre d'autres cultures plutôt que dire qu'on est pour l'interculturalisme parce qu'on veut avoir une culture commune. Cette politique et cette idéologie du contre les autres là, va finir par nous nuire à long terme. Tom O'Care.
Ah oui. Et ça renvoie à votre conversation il y a 3 secondes avec Gaétan Barrette.
Exactement.
Est-ce que pendant la campagne, les gens vont commencer à avoir une vision? OK, qu'est-ce que vous avez fait en santé depuis 4 ans? Est-ce que les gens vont commencer, au lieu de dire murmure, dire un instant, là, ça me met mal à l'aise quand vous dites
ouais.
qu'on ne peut pas mettre toutes les cultures sur le même niveau. Ça mène à des pensées vraiment assez
gros. Ça légitimise aussi plusieurs discours qui sont, qui sont, qui n'ont pas leur place.
Ouais.
Tom O'Care, bonne fête du Canada et on se Salut, reparle à mon retour de vacances.
Ben oui, bonnes vacances, Yasmine. À bientôt. Bye.
Nom, Abdel Fadel. Prénom, Yasmine. Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel Fadel.
Direct à LCN.
Bonjour Jean-François.
On est à la veille de la fête du Canada, 1er juillet. Une fête du Canada dans un contexte un peu spécial où on a un peu mal à nos institutions canadiennes présentement. Je pense juste aux passeports, aux aéroports qui sont débordés. Un contexte est particulier.
Disons que ça donne pas vraiment envie de fêter les institutions aux citoyens ouais. fédéraux. Mais je veux quand même nous rappeler qu'il y a un an, à même date, là, autour du 30 juin, on avait encore un débat sur doit-on fêter le Canada avec toute la découverte des charniers qu'on avait trouvés dans les lieux des pensionnats ouais. autochtones et que l'année dernière, on n'avait pas fêté le Canada. On se rappelle qu'il y avait plutôt un jour de sensibilisation face aux horreurs que les jeunes autochtones dans les pensionnats ont vécu. Et là, cette année, on avait l'occasion de non seulement se rappeler de ces années d'horreur et de se dire plus jamais, mais de dire... Après 2 ans et demi, serrons-nous les coudes. On a vécu des années très difficiles. On a vécu des moments très difficiles, notamment en janvier dernier avec la crise des camionneurs. Mais non, il n'y a personne qui va parler de fêter le Canada. Il n'y a personne qui a le goût encore de fêter le Canada. Et on voit encore une fois que ça va plus être la fête du déménagement que la fête du Canada. Et ça, je m'en désole parce que on a quand même quelques accomplissements dans notre histoire, dans notre identité canadienne, à notre actif qui méritent d'être célébrés. On a joué des rôles majeurs à travers l'histoire, les casques bleus, on a joué des rôles majeurs dans des guerres, dans des conflits, dans des droits des femmes. On a fait des erreurs, oui, on a aussi avancé sur certains dossiers. Et pour moi, c'est important de prendre le temps de se rappeler de ça une fois par année. Dommage que ça s'inscrit encore une fois dans un contexte qui nous enrage plus qu'il nous donne le goût de célébrer.
Ouais, faut séparer le pays, son histoire glorieuse,
ses institutions
ses héros
et ses gestionnaires.
Et ses institutions, exactement. C'est deux choses complètement différentes. J'aime mieux ça comme ça, effectivement. Par ailleurs, le maire de Québec, Bruno Marchand, s'attend à du changement.
Il s'attend à du changement à la formation du Conseil des ministres suite aux prochaines élections provinciales. Puis, ce qu'il sous-entend là-dessus, c'est est-ce que le premier ministre va nommer un nouveau ministre responsable de la capitale nationale pour remplacer Geneviève Guilbeault? Et là, je trouvais ça intéressant de lire ça ce matin parce que je me disais, tu sais, Geneviève Guilbeault, elle a trois chapeaux. Et trois chapeaux qui sont très prestigieux. Déjà, elle est ministre de la Sécurité publique, dans un contexte d'insécurité, d'armes à feu, de gangs de rue, c'est important. Ensuite, elle est vice-première ministre. Est-ce qu'elle va pouvoir garder ce chapeau-là? Et finalement, elle est ministre responsable de la capitale nationale. Et on sait que ça n'a pas été facile dans les dernières années, que ce soit la promenade de Samuel de Champlain, que ce soit la question du tramway. Les relations ne sont pas faciles entre Québec et Québec. Et ça va être difficile, même quand l'opposition officielle de l'Hôtel de Ville de Québec sort pour dire que Geneviève Guilbeault est la pire ministre de la capitale nationale de l'histoire du Québec, ben ça fait mal. Je sais pas qu'est-ce que Geneviève Guilbeault compte faire cet été, mais moi, je lui propose d'aller prendre des marches ou des petites courses avec Bruno Marchand pour qu'il arrête ce genre de déclaration.
Ouais, pourquoi pas? Faut que le maire de Québec et le gouvernement soient sur la même longueur d'onde, sans dire, là, faut qu'ils s'entendent bien, en tout cas, faut que le courant passe.
Oui, il faudrait pas assez le titiller pour le faire sortir de ses gonds sur le troisième lien. Ça serait pas payant à long terme d'une période préélectorale que le ministre Marchand se sente se faire marcher sur les pieds par le gouvernement parce qu'il pourrait sortir publiquement puis de dire, ben le troisième lien, j'en veux pas, ça n'a pas d'allure, puis je vais lutter contre ça. Ça risque de rallumer le feu entre Gilles Loyer, le maire de Lévis, de l'autre côté de la rive, et le ministre Marchand et l'implication des ministres provinciaux là-dessus durant une campagne électorale. Ce n'est pas un sujet que le gouvernement souhaite voir dans les médias en cette période préélectorale, d'autant plus que la région de Québec est très importante et sera fortement disputée avec le Parti conservateur du Québec.
Ben oui. C'est ce que j'allais dire, effectivement. C'est peut-être là où c'est le plus serré dans la région de Québec.
Absolument.
Merci, Yasmine. Bon long congé.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Ex-conseillère politique. Et ça, ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel.
On en parlait tout à l'heure avec mon collègue Olivier Bourque, ce magasin réputé de la Plaza Saint-Hubert, un commerce réputé pour la photographie, Lozo, ferme ses portes après 95 ans d'existence, imaginez. Et pour nous en parler, on a avec nous Manon Lozo-Simard, qui est ex-vice-présidente principale ressources humaines et administration du magasin Lozo et petite fille du fondateur. Elle y a travaillé pendant 31 ans. Bonjour, Madame Lozo-Simard.
Oui, bonjour.
Alors, ce magasin que vous avez grandi dans ce magasin, vous y avez travaillé. Comment on se sent lorsqu'on apprend que là où on a grandi, ça va fermer?
Ben, c'est un choc, hein? C'est un choc. En même temps, tu sais, quand on décide un jour de vendre l'entreprise, on accepte aussi que les nouveaux propriétaires vont faire leur propre choix, mais c'est clair, c'est un choc.
Vous vous attendiez donc pas à cette décision? Ce n'était pas le plan de match qu'on vous avait présenté lorsque vous avez procédé à la vente de cette institution montréalaise?
Non, pas du tout, d'autant qu'on avait pris le temps de choisir vraiment qui était pour être ceux qui prendraient la relève de l'entreprise, parce que ce qu'on avait comme souhait, c'était justement la pérennité de l'entreprise. Hein?
Oui, c'est ça, c'est qu'on ne vend pas pour vouloir fermer, c'est probablement pour vouloir la garder. Et vous, personnellement, vous y avez travaillé pendant combien de temps? Vous faisiez quoi? Est-ce que c'était vos premières jobs?
Moi, j'ai toujours travaillé chez Lozo. Alors, j'ai passé autant à la réception, la caisse, la vente, l'administration, les ressources humaines, la comptabilité, l'informatique. Mon frère et moi, on a passé au travers. On était la troisième génération. Alors, on a fait la majorité des postes.
Est-ce que vous pensez réellement aux arguments? Vous pensez qu'ils sont valables, les arguments des nouveaux propriétaires qui disent les travaux sur la rue Saint-Hubert n'ont pas aidé, les problèmes d'approvisionnement n'aident pas? À quel point, de votre point de vue, les travaux sur la Plaza Saint-Hubert ont contribué à la fermeture de Lozo?
Ben, tu sais, ce que je suis capable de dire, comme la majorité des entreprises là à Montréal qui ont connu des travaux importants sur leur rue, que ce soit, mon Dieu, Sainte-Catherine, Saint-Laurent, Saint-Denis, là, la Plaza Saint-Hubert y a goûté aussi, là, c'est clair. En même temps, c'est sûr qu'en tant qu'entreprise, on fait toujours des choix. Fait que c'est sûr qu'il y a une portion que, oui, je peux valider leurs points. Là, ça n'a certainement pas été facile. La période COVID, tous les commerces au détail ont goûté, là. Mais en même temps, il y a toute ta façon de gérer, de publiciser, de faire les choix. Fait que, et ça, c'est des, comme je disais tantôt, hein, c'est des choix personnels en tant qu'entrepreneur, là, que tu décides de prendre pour la pérennité de l'entreprise.
J'imagine que le marché du magasin Lozo c'est rétréci avec le temps. Tu sais, avant, il fallait avoir du bon matériel de photographie pour espérer prendre de belles images. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone intelligent comme extension de son bras. Tout le monde prend des photos. Et là, ça devient finalement un marché hyper niché des photographes aguerris qui savent comment utiliser ce matériel-là et qui veulent l'utiliser. Est-ce que l'avancée technologique du milieu de la photographie a nuit à des magasins comme les vôtres, un magasin qui est spécialisé dans la photographie?
Bien, comme vous l'avez dit, là, le téléphone est devenu de plus en plus intelligent. Il a pris de plus en plus de place, ce qui veut dire que les petits appareils photos ont disparu là, pratiquement complètement. Mais par contre, tout ce qui est tout le reste des appareils photo, autant pour les professionnels, mais les amateurs, là, ceux qui aiment vraiment faire de la photo, il y a de la place encore. Là. Il y a beaucoup de la technologie est là. C'est une passion pour l'amateur qui aime ça. Il y a vraiment encore de la place là, dans le marché de la photo. Là. La preuve en est qu'à Montréal, juste à Montréal, il y a plusieurs magasins de photos encore. Là.
Oui, c'est ça. Il y en a plus tant que ça non plus. Madame Lezo, pourquoi avoir décidé de vendre votre entreprise familiale?
Ben, c'était une décision vraiment familiale. Alors, avec mon frère, mes parents, Lozo a toujours été à l'avant-garde. Alors, ça a toujours été pour nous, qu'est-ce qui était pour être notre prochaine étape? Qu'est-ce qui était pour faire en sorte qu'on garderait notre place importante là, au Canada dans l'industrie? Et on était rendu... Bon, tu sais, tout le développement du site web était fait et tout ça. Puis là, ben, c'est présenté à nous cette offre-là. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'au fil des années, on a toujours eu des demandes là pour vendre l'entreprise, mais on n'était pas, c'était pas du tout dans nos intérêts. Et là, cette demande-là qui s'est présentée était pour nous arriver dans un bon moment justement pour assurer la pérennité, pour amener dans l'industrie de la photo, en fait, amener l'industrie de la photo à une autre étape en même temps aussi. Et c'était une entreprise qui se présentait de troisième génération, une entreprise canadienne, c'est important pour nous, avec des valeurs qui semblaient similaires aux nôtres. Alors, ça, je reviens là à mon point de départ, c'est vraiment pour assurer la pérennité, là, puis pouvoir en même temps se joindre. En fait, ça faisait que le groupe Enraize Lozo devenait évidemment le plus grand groupe là de l'industrie au Canada.
Oui, par la force des choses, en étant racheté par un groupe aussi, le groupe, l'entreprise familiale Enraize de l'Ontario qui a racheté Lozo. On dit que c'est peu de temps après l'acquisition de votre magasin que vous et votre frère et plusieurs autres employés, vous avez rapidement été mis à pied par l'entreprise et que finalement, l'âme de votre entreprise, ce n'était finalement qu'une façade.
Exactement. Alors, en juillet 2020, c'est là où ils nous ont retiré de nos fonctions. Et mais pendant l'année avant ça, il y avait eu deux restructurations vraiment importantes. Là. C'est-à-dire qu'ils avaient fermé à ce moment-là la division commerciale, tous les départements de location, de réparation. Il y avait aussi, comme on dit, tiré la plug du site web là en français. Alors, c'est sûr que ça a tout changé. Et comme j'ai mentionné, là, ben, ils nous ont retiré de nos fonctions en juillet 2020 pour quelques jours après, finalement, annoncer leur faillite.
C'est particulier, la manière avec laquelle ça s'est fait. Puis d'ailleurs, comment vous avez appris la nouvelle vous-même? Comment on vous l'a annoncé?
Vous voulez dire de la faillite ou de la fermeture du magasin?
De la fermeture du magasin.
La fermeture du magasin, la même chose que tout le monde, là, c'est-à-dire qu'on est arrivé le matin ici à l'immeuble. Et puis, le magasin était vide. Alors, et c'est là qu'on l'a appris aussi avec les employés. Et en même temps, ils ont appelé la famille là pour mentionner que c'était aujourd'hui que ça se passait. Cette journée-là, en fait, que ça se passait, qu'ils fermaient le magasin. Alors, on a eu la même surprise que tout le monde.
Et il faut comprendre que la famille détient encore le bâtiment dans lequel le magasin était. Finalement, Enraize louait le magasin de votre famille.
Exact, exact.
Et c'est, il n'y a pas eu, finalement, on vous a parlé comme des propriétaires et non des personnes qui avaient une âme, une histoire de près de 100 ans dans ce bâtiment-là et devant cette devanture.
Exactement. Alors, ils nous ont mentionné ce matin-là que le magasin fermait et que éventuellement, là, ce serait la suite se ferait avec les avocats. Alors, on n'a pas eu de discussion familiale, disons, avec eux autres, si je peux dire.
Ben, c'est bien triste tout ça. J'imagine que c'est un deuil familial que vous allez que vous entamez, Madame Lozo-Simard, et que c'est la fin d'un long chapitre familial sur trois générations qui se ferme aujourd'hui.
Exactement. Puis on a beaucoup de. Ça nous fait quelque chose pour nous, parce que comme vous l'avez mentionné, c'est au travers de nos trois générations là, dans la famille, mais en même temps, pour toutes les gens qui ont tellement travaillé à cœur avec nous dans la réussite de l'entreprise au fil des années, ça nous touche vraiment beaucoup.
Bien, Madame Lozo-Simard, je vous souhaite bonne chance et j'espère qu'on va garder nos magasins forts, là, ceux qui ont écrit l'histoire de Montréal, ceux que l'on reconnaît à travers l'histoire de Montréal, comme celui de Lozo. Puis, je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
L'actualité peut être caniculaire. Donnez un coup de fraîcheur à l'information. Yasmine Abdel-Fadel.
Les enseignants de la Fédération des syndicats d'enseignement du Québec, affiliés à la Centrale des syndicats du Québec, sont réunis depuis ce matin devant le bureau montréalais du premier ministre pour lancer un message aux chefs des principaux partis politiques. Les conditions d'enseignement doivent être améliorées. Nous avons avec nous Mme Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats d'enseignement du Québec, CSQ. Bonjour Mme Scalabrini.
Bonjour à vous.
Alors, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes venu dire au premier ministre et aux autres chefs de partis politiques?
Bien, vous comprendrez qu'en ce début de vacances, nous sommes venus souhaiter bonnes vacances en campagne. Parce que tout le monde sait qu'il y a des élections au mois d'octobre. Donc, tout le monde sait que dans les grands rassemblements cet été, autour des barbecues, nos candidats de différents partis vont s'inviter aux fêtes pour aller donner des poignées de main, pour aller passer des messages. Et nous, on voulait aussi s'inviter à cette campagne-là. On est en fin d'année. Les enseignants ont dit le merci, ça suffit plus en éducation. Depuis des années, il y a beaucoup de souffrance en éducation et on sort d'une consultation de 1500 enseignants qui nous ont dit que c'était pas tout la reconnaissance d'en parler. Il fallait poser des gestes qui vont venir s'attaquer aux graves problèmes de pénurie qu'on a en éducation présentement, qui va donner le goût à des jeunes de venir nous rejoindre en éducation, mais surtout qui vont garder des enseignants qui sont là. Trois grandes demandes. On dit qu'il faut d'abord travailler sur la composition de la classe. Dans les 20 dernières années au Québec, on a fait des choix de société. On a décidé d'intégrer nos élèves en grande difficulté, en même temps qu'on créait à côté les projets particuliers sélectifs qui faisaient qu'on sortait nos meilleurs élèves de nos classes. Donc, la classe dite régulière n'existe plus au Québec. Les services n'ont pas suivi. Donc, il faut être capable de rééquilibrer ces classes-là.
Deuxièmement, est-ce que vous voulez l'abolition des programmes spécialisés que vous dites sélectifs?
Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut trouver une façon pour équilibrer nos classes.
Mais qu'est-ce que vous proposez comme façon, Mme Scalabrini?
On va donner des services. On va s'assurer que c'est plus rien qu'un message, qu'on va être au rendez-vous pour donner des services. Et on va s'assurer que le nombre d'élèves, la taille de la classe, permet à l'enseignant d'enseigner et de travailler sur les difficultés de chacun de ces élèves-là. Si tu veux faire un choix de société qui amène à en avoir pour tout le monde, ben, il faut pas oublier ces gens-là qui sont du régulier, qui sont dans la moyenne et qui ont besoin de services aussi.
Mais Mme Scalabrini, ça m'amène à vous poser la question. Vous parlez de la taille des classes et de sa composition, donc pouvoir donner de l'oxygène finalement à ces enseignants pour pouvoir enseigner à toutes les strates, tous les segments de la population étudiante, les plus forts comme les plus faibles et ceux qui ont plus de difficultés. Mais la pénurie de main-d'œuvre, on fait quoi avec ça?
On travaille avec les gens du terrain pour chercher des solutions. On arrête de prendre des décisions en haut, de faire des annonces, parce que vous l'avez vu, là, ça fait au moins 20 ans que dans tous les partis confondus vont dire que l'éducation est une priorité. Mais au quotidien, c'est pas vrai. Ça n'a jamais été une priorité. Le plus bel exemple, c'est le deuxième point que je vous amenais sur les enseignants. Ils veulent un allègement de la tâche, un allègement de la bureaucratie. On veut qu'on nous donne de l'air, qu'on nous permette de faire ce pour lequel on a décidé de devenir enseignant, c'est-à-dire enseigner. On ne veut plus être au service de la bureaucratie, on veut être au service de l'apprentissage des élèves. Qu'on arrête là tout ce qui entoure l'éducation, qui est une gestion axée sur les résultats et des statistiques à envoyer au ministère, des évaluations qui ne servent plus à l'apprentissage, mais qui servent à remplir des documents qui ne sont pas nécessaires. Laissez-nous.
Donnez-nous des exemples de ces documents-là pour qu'on puisse comprendre la lourdeur bureaucratique qu'ils requièrent.
Est-ce normal qu'un élève de sixième année, là, un élève au primaire, là, soit un mois en évaluation à la fin de l'année? Une évaluation, quand ça a été créé, là, quand on a voulu des bulletins, c'est que l'évaluation soit au service de l'apprentissage de l'élève. Maintenant, c'est rendu que ça sert à faire des comparatifs entre les écoles, à faire des comparatifs entre les pays, ou à faire réfléchir les gens qui sont au ministère, à faire des comparaisons les uns avec les autres. Nous, on dit, là, toutes ces grandes évaluations-là qui ne sont pas nécessaires, repensons l'évaluation. On est capable, ça coûte rien, ça, là. Soyons-nous, regardons qu'est-ce que ça nous prend comme évaluation.
Mais au nom d'enlever la bureaucratie, Mme Scalabrini, est-ce qu'on n'est pas en train de niveler vers le bas? C'est trop compliqué faire des évaluations ministérielles, ça demande trop aux professeurs,
oh
ça
non.
sert à rien.
J'ai jamais dit ça parce que moi, j'en veux une évaluation qui va nous permettre de faire un bilan. Là. C'est quoi les retards qu'on a eus dans les deux dernières années? Mais il y a une façon de faire des évaluations qui vont nous faire connaître quelle est la problématique de l'élève plutôt que juste des évaluations pour des évaluations qui apportent rien sauf des comparatifs larges. Et ça, si on en parle aux enseignants, ils vont être capables de vous dire comment ont évolué leur élève ou comment n'ont pas évolué leur élève et c'est quoi les retards des deux dernières années. On va rentrer l'an prochain, après deux ans de pandémie, en disant que nos élèves ont de grands retards. Mais on n'est pas allé faire le bilan correctement. On a voulu faire les mêmes examens qu'on faisait il y a 3 ans, 4 ans, quand on disait déjà que on passait à côté de l'évaluation qui sert l'apprentissage pour faire des comparatifs qui amenaient rien et qui étaient beaucoup trop longs. Ce qu'on dit, c'est parler aux gens du terrain, là, puis adaptons ces évaluations-là pour qu'ils soient au service de l'apprentissage et non pas au service du gouvernement.
Madame Scalabrini, vous parlez également de la taille des groupes, de la revoir la composition et que pour le prochain gouvernement, les conditions de travail, ça va être essentiel à la table ronde de négociation qui va être entamée sous peu. Quelles sont vos demandes pour la table de négociation? Est-ce qu'il va y avoir des demandes aussi salariales? Parce qu'on parle beaucoup ici évidemment de la taille des classes, de sa composition et de l'allègement des tâches, mais on n'entend pas parler d'argent.
La dernière négociation, ça a été une négociation où on a fait un pas, puis on le salue, le pas qu'on a fait sur la rémunération parce qu'on s'est rapproché, puis on ne l'a pas atteint encore, mais on s'est rapproché de la moyenne canadienne. Cette fois-ci, oui, il y aura sûrement des choses à regarder dans les échelons, comme on appelle. Tu sais, quand quelqu'un arrive en enseignement, ça va prendre combien d'années avant de pouvoir gravir l'échelon? Partout ailleurs au Canada, c'est de 10 à 12 ans. Ici, au Québec, ça prend 15 ans. On va regarder des choses comme ça et le reste du salarial va aller avec tous les employés de la fonction publique. Là. Vous le savez comme moi, tout a augmenté dans les derniers mois. Il y a un retard au niveau salarial pour tout le monde au Québec. Donc, il va y avoir des demandes en ce sens-là. Mais ce que nous disent les enseignants dans la consultation qu'on vient de faire, c'est surtout les conditions d'apprentissage des élèves et les conditions de travail des enseignants qu'il faut travailler pour prouver que l'éducation est une priorité au Québec.
Pourquoi, Mme Scalabrini, on parle toujours de l'éducation puis la réussite scolaire des enfants quand il y a des rondes de négociations, de conventions collectives qui s'en viennent? Quelles sont les propositions concrètes là, que vous faites au quotidien, au gouvernement, au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, pour que rapidement des mesures puissent être mises en place?
Moi, j'ai le goût de vous dire qu'on ne parle pas d'éducation quand approche la négociation. On parle d'éducation généralement quand approche les élections. Les candidats vont vouloir parler d'éducation, vont vouloir dire que l'éducation est une priorité. Et une fois qu'ils sont élus, on découvre que l'éducation n'est pas une priorité. Vous l'avez vu pendant la pandémie, jamais les enseignants pouvaient apprendre vers où on s'en allait et qu'est-ce qui se passera au quotidien dans la vie des élèves. et du personnel de l'éducation. Le premier ministre faisait une annonce en point de presse, et après ça, il fallait tricoter autour de cette annonce-là pour tenter de donner des services. On demandait à des enseignants, des fois, en 24 heures, de se retourner de bord et d'être capable de s'adapter à un enseignement à la maison, à un enseignement à distance, sans que les élèves soient équipés, aient le matériel informatique pour suivre ces cours-là, sans que l'enseignant ait tous les outils pour faire ça. Nous, ce qu'on dit, on a besoin de faire une grande réflexion en éducation. On n'en a pas profité pendant la pandémie. La négociation et les élections nous permettent de remettre sur la table quelles sont les grandes difficultés et de faire une chose, parce que je vais saluer une chose qui s'est faite au début de la pandémie. Le gouvernement en place, qui construisait l'avion en plein vol, avait réalisé que c'était important de parler aux partenaires. Puis je ne dis pas rien qu'aux syndicats, là. Je dis à l'ensemble des partenaires de l'éducation. Ça s'est fait. Et c'est pour ça qu'au début de la crise, en éducation, on a réussi à faire des choses ensemble. Mais il y a eu aussi de grandes ratées. On l'a vu, on a des écoles qui sont désuètes. La qualité de l'air dans nos écoles est terrible. Il manque de personnel, il manque de locaux. Maintenant, on pense que c'est avec les gens du terrain qu'on peut se parler de tout ça, suivre l'exemple du début de la pandémie, suivre l'exemple du retour qu'on a fait en
classe. Mais vous voyez, Mme Scalabrini, le gouvernement peut agir par lui-même, là, puis pas attendre d'être dans des manifestations puis des rondes de négociations pour pouvoir avoir des bonnes idées. Peut-être pouvez-vous contribuer à la réflexion de tous les partis politiques durant la prochaine campagne électorale. Je rappelle que vos actions s'inscrivent dans une campagne qui va s'étaler durant la campagne électorale, qui s'appelle « Je vote en couleur ». Et Mme Scalabrini, on va suivre vos manifestations, vos sorties publiques et vos doléances durant tout l'été. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous.
Ne suivez pas que nos doléances, suivez nos solutions, puis on sera au rendez-vous pour donner des solutions. Merci beaucoup, madame.
On a hâte de les entendre. José Scalabrini est président de la Fédération des syndicats d'enseignement du Québec, CSQ.
Yasmine Abdel-Fadel.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
Salut Alexandre.
Mais bonjour Yasmine.
Alors, c'est quoi cette nouvelle histoire en Floride? Si on veut partir en vacances, une nouvelle règle qui pourrait nous coûter cher?
Oui, puis c'est peut-être une règle à respecter pour nos snowbirds qui se rendent là-bas en Floride. Nouveau règlement qui est un peu étrange, là, peut-il sembler. Si vous avez de la musique dans votre véhicule, est-ce que tu écoutes de la musique, toi, Yasmine?
De la radio, Cube Radio.
Tu écoutes Cube Radio dans ton auto. Vous pouvez l'écouter même en Floride, hein, c'est-tu pas magnifique? Mais quand vous écoutez de la musique en ce moment, si vous faites jouer de la musique trop forte dans votre véhicule, véhicule en Floride, ben vous pourriez avoir une amende de 114 $ américains pour faire jouer de la musique trop forte.
Pourquoi? Ça dérange le monde?
Écoute, l'histoire ne le dit pas. C'est parce qu'il y a des gens qui sont incommodés, semble-t-il, par la musique trop forte.
Sur Ocean Drive, là, dans South Beach, moi j'appelle ça un attrape-ticket. Là. Des policiers pourraient se poser là parce qu'il n'y a que des voitures avec de la grosse musique,
la grosse musique qui passe après l'autre. Mais c'est peut-être désagréable justement pour les gens des quartiers résidentiels. Et donc, on dit que maintenant, il ne faut pas que la musique soit entendue à plus de 25 pieds du véhicule. C'est ça la limite qui est fixée. Donc, si on est un peu plus loin et on entend votre musique, vous pouvez avoir une amende. Et si vous vous trouvez près d'une église, d'un hôpital, d'une école, puis que votre musique est jugée trop forte...
Vous jouez l'Ave Maria.
Ouais, ben il n'y a pas... Même si vous jouez Ave Maria près d'une église, la règle du 25 pieds ne s'applique pas près de ces bâtiments-là.
Ah.
Donc, dès que vous êtes proche d'un bâtiment et qu'on dit... Ah, de ce genre de bâtiment-là, votre musique est trop forte, bing, amende, 114 $. Donc, si vous comptiez justement...
Ça compte même pas la musique gospel?
Ça compte rien, ça a de l'air. Si la musique est trop forte, mais comme c'est à la discrétion de l'agent ou de l'agente de la paix, peut-être que ça va aller avec leurs goûts musicaux. Il y a peut-être de la musique qui aime plus.
Si t'écoutes Eminem à côté d'une église, ça marche pas. Mais si t'écoutes quelques chansons... plus religieuse, de gospel, quelque chose là, qui va te chercher.
Ça va peut-être passer.
Bref, morale de l'histoire, achète-toi des écouteurs puis écoute la musique où tu veux.
Exact, mais les écouteurs en auto, c'est pas conseillé non plus. Faites attention, soyez au courant quand même de ce qui entoure votre voiture. Mettez pas votre musique trop fort. Et c'est valide ici aussi, même si vous ne pouvez pas avoir une amende de musique trop forte, des fois,
montez
ça dérange un peu tout le monde. Montez vos fenêtres.
Alexandre Morin-Villouellette.
Salut.
Merci beaucoup. Bye-bye.
Cube Radio.